tous, c'est TMDJC, vous êtes sur Gaming Live et vous êtes dans l'émission Démage. Aujourd'hui, on a choisi un petit sujet un petit peu polémique, on va parler du piratage et on va même essayer de définir si le piratage est un nouveau mode de consommation en général. Alors j'ai avec moi 4 personnes de qualité, parce que je ne prends d'ailleurs que des personnes de qualité, c'est un petit peu mon trait de caractère. Et j'ai juste à ma gauche Thomas et Rémi, qui sont tous les deux les podcasteurs d'Un Drop dans la Mare. Vous pouvez présenter un petit peu Un Drop dans la Mare ?
Vas-y, je te laisse Thomas.
Donc Un Drop dans la Mare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne YouTube dont le thème principal est le jeu vidéo. Et on essaie d'aborder des sujets parfois polémiques, parfois qui nous tiennent à cœur tout simplement, et de donner notre point de vue. Donc on a un ton un peu plus libre qu'un journaliste parce qu'on n'a rien à prouver, on n'a rien à démontrer, c'est vraiment ce que nous, notre vision du jeu vidéo.
Ouais, voilà. c'est pas mal.
Un bon résumé.
Puis on essaie d'avancer, de faire avancer le débat, c'est comme ça que je dirais. Donc voilà. On polarise un peu notre opinion, on en donne une pour pas être toujours dans le oui mais pas que.
Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir également. C'est pour continuer à faire ça, tu as à ta gauche Henri, qui est donc avocat. Donc avocat dans le domaine particulier en vidéoludique.
Oui, tout à fait.
Donc si tu peux nous toucher deux mots de ton métier.
Alors le métier d'avocat, c'est un vaste sujet. Ouais. On peut dire beaucoup de choses, ça fait plein de choses les avocats. Plus précisément dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de problématiques juridiques. Ça va de la rédaction des contrats à la cession de droits d'auteur, qu'on a parfois tendance à oublier, au contentieux, au précontentieux, notamment lié au piratage, mais pas que. Et donc, c'est en train de devenir en France un sujet à part entière. Ça l'est déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, on a des départements jeux vidéo dans certains cabinets. À ma connaissance, ça n'existe pas encore en France. Mais il y a de plus en plus d'avocats qui commencent à s'intéresser au sujet.
Est-ce qu'on sait pourquoi ça n'existe pas encore en France ? C'est juste une question de culture ou
Je pense que c'est une question d'enjeux financiers. Aux États-Unis, d'abord, c'est plus facile de faire un procès. Enfin, c'est plus facile. C'est-à-dire que l'enjeu financier peut rapidement être beaucoup plus intéressant, les dommages et intérêts accordés peuvent être beaucoup plus intéressants. Et par conséquent, on assiste parfois à des choses un petit peu folles avec des gens qui vont croire se reconnaître dans un jeu, à tort ou à raison parfois. Et il y a peut-être une culture du contentieux aux États-Unis qui existe moins en France. Et ce qui fait que ça devient un vrai sujet aux États-Unis. Alors qu'en France, malgré tout, on a des problèmes de droits d'auteur, on a des problèmes de détournement sur des forums, des choses comme ça. Mais ça reste noyé dans la masse, j'ai envie de dire.
Doug Alves, qui est donc à ta gauche, qui est donc historien du jeu vidéo, entre autres, parce que c'est pareil,
ouais,
t'as un CV qui est long comme le bras et qui donc est avec nous aujourd'hui également pour parler de piratage. Toi, c'est quelque chose que tu connais très bien parce que t'es un petit peu des deux côtés du tableau, donc ton avis nous sera particulièrement précieux ce soir. Alors, avant de démarrer au sens propre du terme et de voir tous les aspects de ce débat, on sait qu'en France, il est assez compliqué d'exprimer à qui appartient un jeu vidéo parce que c'est souvent toute une équipe et il est beaucoup plus simple souvent de définir à qui appartient un film, même quand le film contient beaucoup de personnes. On sait à peu près à qui appartient un livre parce qu'en général, c'est une, deux, trois personnes qui l'ont écrit. On sait à qui appartient un album de musique, mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un petit peu plus compliqué. Comment ça se passe légalement parlant aujourd'hui ? Peut-être Henri, si tu peux nous en toucher deux mots.
Oui, bien sûr. Ça dépend. Toujours un petit peu pareil, mais la règle, c'est que le jeu appartient à celui qui l'a fait. Donc la question sous-jacente, c'est qui a fait le jeu vidéo. Alors, pour simplifier, on va dire c'est le studio qui fait le jeu. Et parfois, le studio peut céder ses droits à un éditeur. Après, avec les nouveaux modes d'exploitation des jeux, la manière dont ils sont faits, la dématérialisation, etc., parfois, le rôle de l'éditeur a tendance à s'estomper un petit peu. Mais grosso modo, on va dire qu'à la base, ça appartient au studio, et puis le studio cède ses droits à l'éditeur. Voilà, ça, c'est la règle. Maintenant, il ne faut pas oublier que les droits appartiennent au studio seulement s'il les a récupérés lui-même auprès de ses propres salariés. Ce qu'on a tendance parfois à oublier, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que c'est pas parce qu'on a un contrat de travail que ce qui a été créé par le salarié est automatiquement transmis à son employeur. Surtout dans le domaine artistique, Alors il y a une petite exception sur les logiciels, donc manque de peau pour les développeurs qui nous regardent, c'est les développeurs oubliés. Tout ce que vous faites appartient d'office à votre employeur. Par contre, pour les autres, les game designers, les web graphistes, etc., ou les compositeurs, vaste sujet dans le jeu vidéo, ça, pour qu'il y ait une transmission de la propriété au studio, il faut que dans le contrat de travail, ce soit bien précisé qu'ils ont transmis leur propriété à leur employeur. Et puis si ça a bien été fait, à ce moment-là, le studio conserve donc la propriété et souvent, parce qu'il n'a pas le choix, la transmet lui-même à l'éditeur. Après, ça dépend de ce qu'ils ont convenu entre eux.
Je dis un truc un petit peu énorme, mais ça veut dire que si ça n'a pas été prévu dans le contrat et que j'ai fait une texture pour un personnage dans le dernier Assassin's Creed, il m'appartient en fait, c'est ça ?
Ouais, grosso modo. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est quelle est la part de ce travail dans la création d'ensemble ? C'est-à-dire que si tu as fait juste une texture ou tu as dessiné une cravate sur un personnage, c'est vrai que tu seras l'auteur, c'est vrai que normalement on ne peut pas l'exploiter sans ton autorisation. Mais on va calculer que concrètement, ton apport représente 0,0001% du jeu. Et donc, tu auras le droit certainement à une redevance proportionnelle à Astos, qui ne te donnera pas grand-chose. Non, parce que en fait, à ce moment-là, ce qu'on dira, en tout cas en droit français, c'est que c'est tellement compliqué de calculer ce qui t'est dû. Enfin, c'est tellement disproportionné qu'on va te donner une somme forfaitaire, puis ça s'arrêtera là. Tu repartiras avec 300 euros, tu auras embêté beaucoup de monde. Et puis, tu auras fait plaisir à ton avocat, mais ça, c'est une autre question.
D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique pourquoi il n'y a pas de personnage féminin dans le prochain Assassin's Creed. Peut-être ce qui s'est passé.
Non, mais
Le développeur est parti avec...
Non, mais un des problèmes du...
Ah, mais tu me l'apprends.
C'est une supposition.
Un des problèmes du jeu vidéo, c'est que c'est à la fois artistique et technique. Mm-hmm. Et en France, on a résolu le problème pour le cinéma, par exemple, qui a la même problématique.
Oui.
Et on l'a mis dans les arts. Et d'ailleurs, beaucoup plus...
C'était ma prochaine question.
Voilà, ouais, voilà.
Pourquoi cette différence?
De façon beaucoup plus claire qu'aux États-Unis même. Hein. Le cinéma est plus un art en France qu'aux États-Unis. Alors qu'ils font beaucoup plus d'argent avec que nous. Pour eux, c'est plus de l'entertainment pour le cinéma hollywoodien. Ouais. Et en France, on va voir le ministère de la Culture. Pour eux, ils ne comprennent pas le code, ils ne comprennent pas la partie logicielle, la partie technique.
Je pose
ils voient le jeu vidéo comme un dessin animé. Donc pour eux, les auteurs, c'est limite ceux qui dessinent le jeu. Et c'est ça, c'est problématique parce qu'il y a une mécompréhension du jeu vidéo, quand même, dans les hautes instances. Et ça, c'est compliqué.
Donc c'est cette mauvaise compréhension en fait, qui génère pour l'instant stéréo.
Oui.
Alors. Oui.
Ouais, juste pour revenir, je suis pas complètement d'accord. Je pense aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été faites, notamment
ça évolue,
avec le CNC, ça évolue beaucoup. Et puis, alors, il y a ce qu'on appelle l'art, et puis il y a l'œuvre qui est protégeable par le droit d'auteur. Alors, ce qui est un petit peu marrant, c'est que depuis 1986, donc ça date quand même, le jeu vidéo est considéré comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur. Et ce qui est marrant, c'est quand on regarde les décisions de la Cour de cassation, donc c'est la Cour suprême en France, elles se sont obligées de préciser que même si c'est artistiquement pas terrible, notamment sur une décision Mortal Kombat, par exemple, où vraiment ça lui faisait mal, on sentait que ça lui faisait mal d'écrire que c'était une œuvre protégeable par le droit d'auteur, elle dit mais peu importe, à partir du moment où il y a un travail de création, on est obligé d'appliquer le droit d'auteur. Et donc,
c'est logique, dans Mortal Kombat il y a des ninjas, donc on était là, enfin je veux dire, on était obligé quand même.
Et voilà, donc ça fait quand même plusieurs années qu'on applique le droit d'auteur. Je pense que la différence avec le cinéma, c'est peut-être que le cinéma, malgré tout, est antérieur aux jeux vidéo. C'est vrai que c'est vu comme quelque chose de plus noble. Et on a des professions qui sont bien identifiées. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas dans le jeu vidéo. Oui. Mais c'est nouveau par rapport à ce qu'il y avait dans l'industrie du cinéma. Donc dans l'industrie du cinéma, on a été capable de dire, bon, bah voilà, le producteur, il détient tant de choses, le scénariste, le metteur en scène. Pendant longtemps, ces fonctions ont peut-être été moins connues pour le jeu vidéo, en tout cas des pouvoirs publics, qui effectivement ont besoin maintenant de rentrer un petit peu dans le détail et de comprendre comment ça fonctionne.
Alors du coup, on va rentrer maintenant réellement dans le débat. Qu'est-ce que ça pèse, le piratage, aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo ? Pour les éditeurs, en tout cas.
Vaste question.
Je découvre qu'on rentre dans l'angle du piratage par l'angle culturel, comme s'il était indissociable le fait que le piratage soit lié au produit culturel. Mais on peut très bien pirater quelque chose qui n'est pas culturel.
Un exemple, par exemple.
En fait, le piratage, là, sur lequel on se pose la question, c'est parce que c'est un objet impalpable et numérique.
Oui, mais alors, déjà, le terme piratage.
Oui, nous aujourd'hui, on se réunit pour parler du piratage numérique, mais en fait, finalement, le problème, c'est que l'objet, il n'est pas culturel, c'est qu'il est numérique.
Ouais, mais ça change complètement les propriétés d'un objet, le fait qu'il soit numérique. On n'est plus dans le même monde, exactement. On n'est plus dans le monde matériel.
Donc, finalement, l'angle d'attaque, ce serait plus
pirates, numérique. Ouais, les pirates, c'est des gens qui vont t'agresser, qui vont te tuer pour te prendre tes biens. Là, c'est ça, les pirates, c'est ça.
Je ne suis pas du tout en train de ta question.
Non, mais c'est ça, les pirates. Donc déjà, moi, rien que le mot, il me choque. Voilà.
Mais pourquoi ça serait pas culturel, le piratage numérique?
C'est là où je te soutiens. C'est que le mot...
Tu peux pirater un PowerPoint. Je te fais un PowerPoint au boulot, un truc...
C'est numérique aussi, un PowerPoint.
Tu peux pirater un PowerPoint.
Mais quel rapport entre le piratage numérique et l'origine du mot piratage?
Je suis persuadé que le jeu vidéo a besoin de ce débat parce que, comme il se demande encore si c'est un produit culturel, avant de rentrer dans le débat du piratage, il rentre dans le débat culturel. D'abord, il se légitime. Oui, je suis de la culture. Et après, c'est pour ça qu'on a fait le même automatisme.
Mais un PowerPoint, ça se pirate. Le problème, il est pas lié aux facteurs culturels du jeu vidéo. Il est lié au fait qu'il soit copiable.
Tu regarderas que sur un débat sur le piratage au cinéma, il n'y a jamais cette étape avant de est-ce que le cinéma est un bien culturel. Et il y a systématiquement cette discussion dans le jeu vidéo. C'était juste ça mon étude.
Effectivement, cette discussion est encore là. Oui, je pense qu'on l'aura en plus encore pendant quelques années. Ça, ça m'étonnerait que ça change du jour au lendemain. Mais enfin, on voit quand même qu'en termes de reconnaissance, il y a déjà tout un parcours qui a été fait. Le fait que certaines personnes connues du jeu vidéo, je pense à Miyamoto par exemple, qui reçoivent la Légion d'honneur, ce genre de choses. Enfin, on est arrivé tout doucement. Enfin, il y a une reconnaissance qui tout doucement se fait. C'est un discours qui va tout doucement s'estomper, je pense.
Tous les grands footballeurs et tous les grands chanteurs ont aussi la Légion d'honneur. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça distingue...
C'est pas faux. Est-ce que Ribéry, c'est de la culture? C'est une excellente question à laquelle nous allons répondre ce soir.
Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus une reconnaissance. Il y a le jeu vidéo arrive dans les musées.
Oui. Ah ouais.
C'est le MoMA, je crois, qui a...
Mais le plus grand ennemi du jeu vidéo, c'est le jeu vidéo. En même, c'est les gens qui travaillent dans le jeu vidéo. C'est les grosses sociétés. Il y a énormément de responsables de grosses sociétés qui luttent pour que le jeu vidéo ne soit pas reconnu comme produit culturel.
Et plutôt comme un produit de consommation, comme certains d'ailleurs cinéastes.
Mais plus qu'un produit de consommation, certaines personnes de notre industrie voudraient que ça soit un service, le jeu vidéo. Comme si on allumait une télé, une chaîne de télé, et pouf, vous jouez à ce que vous propose. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez garder, transmettre, qui est de la valeur culturelle. Donc oui, il y a une bataille entre les deux parties.
Mais on va y revenir d'ailleurs sur cet aspect-là après. Mais alors, du coup, pour recentrer le débat autour du piratage, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de combien le piratage coûte aux éditeurs, s'il y en a un de vous qui a une idée justement là-dessus.
Moi j'ai un peu lu avant de venir, je n'ai pas venu les mains dans les poches.
C'est merci à vous deux. On va demander aux autres de sortir du coup, c'est ça.
Il y a quelque chose qui m'a fait rigoler, qui m'a marqué, c'est que selon les sources, on a des chiffres complètement différents. Il y a une notion.
C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre.
Une notion qui m'a bien plu, c'est le taux de substitution. C'est le nombre d'œuvres que j'aurais pu vendre si le piratage n'existait pas.
Qui est une notion qui m'a toujours fait beaucoup sourire d'ailleurs. Ça.
Et pour un éditeur, le rapport il est de 1. C'est-à-dire qu'une copie pirate, c'est une perte, une vente en moins. Et après, j'ai lu un rapport du Parti Pirate, donc qui a priori aurait plutôt le point de vue opposé. Et pour eux, le rapport il serait de 0,2. C'est-à-dire que 5 copies pirates, ça serait qu'une seule perte, donc qu'une seule vente en moins pour l'éditeur. Donc je pense que la réalité elle, se situe plutôt entre les deux, parce que on peut s'appuyer sur le principe des profils de pirateurs. Il y a celui qui va pirater et qui l'achètera plus tard. Il y a celui qui pirate et qui l'achètera jamais. Il y a celui qui pirate une musique, mais à côté il paye un abonnement mensuel à Spotify. Est-ce que ça compense pas un peu quand même?
Donc si on prend le milieu là, si on prend le milieu, ça fait quoi? Sur 10 objets piratés,
du coup ça serait une moyenne de 0,3.
Tu perds 3 jeux. 1 sur 10, tu peux.
Cette copie pirate représenterait une perte pour l'industrie. Voilà, c'est ça le problème.
Il est évident que si je prends un jeu, je le copie en 10 millions de fois sur mon disque dur, il y a 10 millions de pertes. Enfin voilà, si je prends la logique des éditeurs.
Oui, ça c'est la logique des éditeurs.
10 millions de jeux qui auraient pu être vendus qui sont sur mon disque dur. Voilà. Mais en fait, non.
Mais c'est un peu terre à terre comme raisonnement. Voilà. Mais c'est dans leur intérêt de dire ça aussi.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Ouais, je crois qu'on ne peut pas limiter à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette logique de substitution, par exemple, typiquement, quand on nous demande de calculer un préjudice, on a tous tendance à faire ça. C'est-à-dire si le jeu a été piraté, c'est autant de jeux en moins qui peut être vendu. Donc, et c'est pas propre aux jeux vidéo, on le fait toujours, et je suis d'accord, ça peut se discuter. Mais par derrière, il y a également. J'ai envie de dire le préjudice par rapport à l'investissement, par rapport à la création, par rapport à l'effort, par rapport au temps passé. Et c'est vrai que la contrefaçon est un des rares domaines en France où on a presque ce qu'on pourrait appeler des dommages à intérêt punitifs. C'est-à-dire que normalement, quand il y a une contrefaçon, on devrait obtenir exactement ce à quoi on a le droit. C'est-à-dire, j'ai perdu un jeu, ben, je suis remboursé d'un jeu. Mmh. C'est un des rares domaines où... en réalité, les tribunaux vont donner un peu plus que ce à quoi on avait le droit. Donc c'est pas déconnant de dire que un jeu piraté, c'est un jeu en moins, même si effectivement, sociologiquement, c'est certainement pas la vérité, et que je suis d'accord, il y a des gens qui vont pirater le jeu et qui l'ont jamais acheté.
Alors,
mais quand même, il y a une logique certainement, non seulement de réparation, mais peut-être un petit peu de punition, j'ai envie de dire.
Ouais, ce que je reproche, effectivement, à notre société, et donc aux lois, c'est d'avoir cette logique-là qui va tout le temps être du côté de ceux qui ont de l'argent. C'est-à-dire que on va pas prendre la logique inverse. Qu'est-ce qui a fait se développer à la fois l'informatique et les jeux vidéo? C'est le piratage. Donc maintenant, les pirates devraient aller mettre des procès aux boîtes pour dire ben voilà, maintenant vous avez une industrie qui s'est créée grâce à nous et donc récupérer de l'argent. Pourquoi?
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'ils ont fait du marketing pour le jeu vidéo pendant de nombreuses années. iTunes n'existerait pas aujourd'hui sans Snapster. Le nombre de personnes qui ont acheté des micro-ordinateurs 8 bits qui se sont mis au jeu vidéo, à l'informatique, à la création de logiciels, sans savoir qu'ils avaient droit à pouvoir copier les logiciels gratuitement sur une cassette, ils n'auraient jamais acheté d'ordinateur. Quelque part, il y a une grosse partie de l'industrie qui a été construite grâce au piratage. Donc ça ils vont...
Tu mets en avant le fait que, par exemple, Sony a vendu aussi beaucoup de graveurs à l'époque où le jeu est passé...
Sans même aller jusqu'à là. La légende du la PlayStation est une machine piratable.
Je pensais même pas à la PlayStation. Je pensais plutôt en fait au format CD qui lui s'est énormément développé dès lors effectivement que le graveur est arrivé.
Et bien sûr, et les cassettes audio aussi. Donc on pourrait faire le procès inverse.
Je comprends pas en quoi ça donne un droit. Parce que
Ça donne aucun droit. On a tendance à oublier cette logique. Beaucoup de boîtes se sont développées grâce à la popularisation du média.
Mais si tu vas au bout, ça veut dire que la boîte doit avoir de la reconnaissance pour le pirate, du coup. Si tu vois,
dans voilà. Je fais comme eux. Je prends la logique complètement inverse.
Du coup, il faudrait une tolérance au piratage.
Faudrait que des fois, oui, il soit un peu plus pragmatique.
Mais cette
pragmatique.
Elle serait due à la reconnaissance qu'on a des pirates.
Mais c'est exactement comme dans notre société, la reconnaissance qu'on a. C'est exactement, moi, je défends autant les pirates que les auteurs. Quand un truc se vend pas, on va pas aller taper sur le marketing, on va aller taper sur les auteurs. Il y a beaucoup de piratage, votre truc, c'est pas vendu, donc on vous baisse vos bénéfices. Ça, actuellement, les auteurs, ils sont pris à la gorge. Actuellement, de partout. Je vois des réclamations d'auteurs de BD, hein, de plein d'autres médias,
c'est pas spécifique aux jeux vidéo.
C'est pas spécifique aux jeux vidéo. Alors, voilà. Donc, c'est toujours. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui veulent gagner et gagner plus, c'est les sociétés. C'est-à-dire que ça soit. Ils veulent gagner sur tous les plans. Et donc, je les trouve intolérants à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils devraient. Franchement, comprendre d'où ils sont venus. Que ça soit l'informatique ou les jeux vidéo, c'est pas venu de sociétés qui se sont créées, qui se sont dit on va faire des jeux vidéo, c'est venu de gens qui les faisaient gratuitement. Ils sont, que ça soit Nolan Bushnell ou Electronic Arts, ils ne sont pas arrivés en créant le jeu vidéo. Il y avait du jeu vidéo gratuitement avant. Et ils sont venus, ils se sont dit « Ah, on va s'emparer de ce média et on va le vendre au grand public. » Des fois, voilà. Le seul truc que je dis, c'est qu'il faudrait qu'ils soient un peu moins virulents et un peu moins agressifs, être tolérants. Mais ils trouver un autre système économique, un autre modèle économique qui remette un peu les pendules à zéro. C'est parce que plus une compagnie alors les groupes, les pirates hardcore, hein, ceux qui déprotègent les logiciels, s'ils sont vraiment contre les grosses compagnies, bah en fait ils ont cette haine là quelque part de ne pas être compris par les grandes compagnies. Et s'il y avait un peu moins de dialogue, s'il y avait un peu plus de dialogue et un peu moins d'agressivité, je pense que
Du coup, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que ça sous-entend, et je suis peut-être d'accord avec toi, que les gros uploaders, en fait, il n'y en a pas 40.
Gros uploaders de craquer. Bah bien sûr. Ah bah oui, c'est évident.
Ils ont peut-être craquer un jeu, c'est, de toute façon, c'est pas donné à n'importe qui, on est
d'accord.
C'est
pas évident, d'ailleurs, les éditeurs,
particulièrement aujourd'hui,
un peu abandonné la bataille, parce qu'ils se battent contre des... Contre des gens qui...
Ça soulève une autre question qui... Alors là, vraiment une question de consommateur, parce que pour ma part, j'achète mes jeux comme j'achète mes DVD. Il y a un truc, moi, qui vraiment m'embête en tant que consommateur, c'est que j'achète des produits que je ne vais pas pouvoir forcément utiliser sur toutes les plateformes. Alors là, je ne parle pas d'un... Évidemment, si j'achète un jeu de PlayStation 3, il est normal que je ne puisse pas y jouer sur ma Xbox. Je ne parle pas de ça. On est d'accord.
Je ne suis pas du tout d'accord.
Mais en tout cas, dans la logique, elle est on pourrait discuter de ça après si tu veux, mais dans la logique, voilà, c'est marqué sur la boîte, on me l'a dit. Bon, alors j'achète un CD de musique qui fait que je vais pas pouvoir le mettre sur toutes les platines parce qu'il y a une protection dessus.
Ah, c'est pareil.
J'achète un DVD, c'est pas tout à fait pareil. Là, normalement, je suis censé pouvoir le mettre sur tout ce qui lit un CD audio. C'est marqué dessus, c'est marqué sur ma boîte que je peux l'utiliser sur toutes les platines audio. Donc il y a aucune raison que je ne puisse pas utiliser sur toutes les platines audio, qu'il y a une platine qui ne l'accepte pas. Je ne peux pas concevoir un instant que quand j'achète mon DVD, je me tape une demi-heure de pub que je ne peux pas zapper et qu'on me rappelle que ce n'est pas bien de voler alors que je viens d'acheter le DVD. Et à côté de ça, si jamais je l'ai téléchargé sur un torrent, bah, j'ai que le film en bonne qualité, parfois meilleur parce qu'ils ont été récupérés des éléments d'origine que sur le DVD où il va y avoir une compression toute pourrie. Des fois, quand je vois la comparaison entre ce que j'ai acheté et ce que les pirates ont, je me dis, du coup, ça donne pas très envie. Donc, il y a aussi un moment donné où on a l'impression que, alors là, on parle spécifiquement du jeu vidéo, mais c'est pareil dans d'autres domaines, que le consommateur est également pris pour une vache à lait. Et je vous pose la question de savoir si ça n'engendre pas justement une forme de piratage. Comme si on se disait, attendez, vous me faites payer tant un jeu vidéo, est-ce que c'est normal? Il y a une des questions qui nous a été posée sur Twitter, qui ne justifiait absolument pas le piratage, mais qui était, si moi je paye mon jeu 70 euros et que mon jeu me dure moins de tant de temps, est-ce qu'on peut se mettre à quantifier du coup la qualité du jeu au temps? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on se dit, est-ce qu'à un moment donné je ne me suis pas fait rouler un petit peu dans la farine? Donc c'est le genre de questions que les consommateurs vont poser également.
Mais ça n'a rien à voir avec le piratage. C'est-à-dire qu'il y a des vraies questions, effectivement, c'est scandaleux de vendre des choses sans rapport avec leur valeur. Mais basiquement, en prenant j'ai envie de dire des éléments de langage complètement opposés à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on serait d'accord sur plein de choses, mais c'est un petit peu la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si un éditeur sort un jeu en le vendant très très cher, et puis on constate qu'en 24 heures on a fait le tour, la prochaine fois on l'achète pas, c'est tout.
Et puis,
effectivement, il y a un vrai souci lorsque on obtient plus facilement et en meilleure qualité des jeux piratés. C'est qu'il y a un problème quelque part. Je pense notamment, alors là c'est pas le jeu vidéo, c'est tout ce qui est VOD. C'est pas normal qu'il y ait une offre de VOD qui soit si faible, alors que sur internet on peut voir la dernière série en VO quasiment instantanément. Donc, mais ça ne justifie pas le piratage, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, un avertissement aux éditeurs et aux producteurs qu'il faut se mettre à niveau et répondre à la demande.
Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. On peut plus se permettre de dire que c'est une histoire d'offre et de demande. On vit quand même dans une sur-sollicitation d'achat. T'es pas dans une...
Ok. On l'a entendu.
Tu n'es pas dans une posture neutre où soit j'achète, soit j'achète pas. Tu es dans une posture où tu as une interaction avec le jeu Assassin's Creed constamment. Tu prends le métro, tu as une interaction avec lui, on te dit de l'acheter. Tu vas sur Internet, on te dit de l'acheter. Tout la télé, on te dit de l'acheter. Cette situation n'est pas neutre. Donc, tu peux pas dire t'achètes ou t'achètes pas. C'est tu réagis. Et soit tu réagis en piratant.
C'est vrai. J'avais un certain nombre d'années un prof de droit qui disait le consommateur n'est pas forcément un imbécile. Et c'est vrai qu'on est très sollicité. Mais enfin, si on veut pas acheter, on n'achète pas, c'est tout.
Exactement.
Par contre, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que qui sont les encore une fois que ça soit dans le jeu vidéo, dans l'informatique, c'est les pionniers qui comprennent le mieux, c'est ceux qui vraiment créent le média, qui comprennent le mieux comment il va marcher, évoluer. Et dès les débuts, les pirates savaient que les programmes allaient s'extraire du côté matériel, c'est-à-dire sortir des disquettes et devenir dématériel, la musique aussi, et les vidéos aussi, et bien avant l'industrie, parce que l'industrie a peur de bouger. Et les pirates ont bousculé les industries pour qu'ils ils commencent à proposer l'équivalent au grand public, et c'était quelque part c'était des gens qu'il fallait suivre, quoi. C'était les innovateurs, c'était les pirates du côté technique.
Je peux me permettre, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est les débuts. Moi, ce que je vois aujourd'hui, le piratage, c'est un piratage de masse, et je connais aucun chiffre, mais je dirais que 99% des pirates, ils le font pas dans cette volonté que tu expliques, de donner un contenu à quelqu'un d'autre ou de faire avancer l'industrie. Ils piratent pour avoir le bien, qu'il soit matériel ou immatériel. C'est juste pour avoir le... Là, c'est vraiment de la consommation, quoi. Il n'y a pas l'acte politique dont tu parles.
Oui, tout à fait.
Il n'y a même plus l'acte de piratage. On dit pirate, mais en fait, c'est trois clics.
Tout à fait. Les gens qui donnent l'aude et tout ça, c'est pas du
piratage.
Non, mais déjà, le terme pirate, on l'expliquait tout à l'heure, c'est...
Dans un court instant à cet aspect-là, justement.
Oui, on va faire une pause.
On va juste faire une petite pause publicité et puis rester avec nous, parce qu'on est là, de toute façon.
On reste là.
Restez.
Nous aussi, on reste.
C'est un peu froid.
Et on est de retour dans Démage, vous êtes toujours sur Gaming Live, c'est toujours TMDJC, et je suis toujours en compagnie de Thomas, de Rémi, d'Henri et de Doug, et nous sommes en train de parler de piratage. Alors, messieurs, on parlait tout à l'heure du point de vue de l'éditeur, et puis on a aussi un petit peu... On a été creusé un petit peu plus loin. On commençait tout doucement à parler justement des consommateurs. Pourquoi est-ce que les gens en viennent justement à pirater? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, en fait, on est plus de facilité qu'avant à pouvoir pirater? Je vais prendre un exemple très concret, mais par exemple, vous avez la console portable de Nintendo, par exemple. On se rend compte que je suis une maman, j'achète la console à mon fils et en fait très facilement je peux récupérer une carte avec plein de jeux. Est-ce que ça n'aide pas du coup le piratage? Des fois il y a des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est illégal.
Oui, alors je peux commencer.
Ah mais avec plaisir.
Alors, déjà il y a un problème d'éducation. On a eu Hadopi en France, il y a un équivalent en Angleterre. Or en Angleterre, là leur conclusion actuelle c'est... On va changer notre fusil d'épaule. On ne va plus balancer des mails aux gens qui piratent. Maintenant, on va les éduquer à l'école. On va leur apprendre ce que c'est de créer une œuvre, parce que c'est un auteur et tout ça, parce que c'est en train de complètement. Ils sont en train de voir que aujourd'hui, les gamins, ils arrivent devant un ordinateur. Ils ont Google. Google, c'est gratuit. Ils ont Facebook. Facebook, c'est gratuit. Ils ont leur email. C'est gratuit. Ils vont sur les sites, ils écoutent de la musique. C'est gratuit. Au bout d'un moment, on met dans la tête des gens, on les éduque en leur disant « mais tout est gratuit ». Au bout d'un moment, ils n'ont plus conscience de quelque part, on fait perdre de l'argent à quelqu'un. Quelqu'un qui pirate encore. En plus, j'aime pas ce mot, mais bon, c'est le mot qu'on utilise. Un pirate qui est quelqu'un d'éduqué. Il va se dire, par exemple, j'ai 400... euros dans le mois pour des biens culturels. Je vais les dépenser, puis après, s'il y a deux, trois trucs que j'ai envie d'essayer, je vais les pirater, puis au pire, je balancerai un peu d'argent à l'auteur plus tard ou j'achèterai l'œuvre. Mais si on crée une génération qui pense que tout est gratuit, là, par contre, ça va faire mal. Et ça, c'est super important.
Alors, du coup, quand ça va faire mal, Henri, est-ce que tu peux nous dire du coup combien ça coûte? Enfin, si jamais moi je me fais choper en tant que pirate, qu'est-ce qui se passe en fait si j'ai piraté quelque chose et qu'est-ce que je risque légalement parlant?
Alors, il y a. Bon, j'annonce la couleur, mais pour des biens comme le jeu vidéo, ça n'est jamais arrivé. Et pareil pour tout ce qui est vidéo, etc. Il y a la partie pénale et la partie civile. Donc, partie pénale, en théorie, donc, le terme juridique pour piratage, hein, c'est contrefaçon.
Contrefaçon.
C'est 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Mais enfin, ça n'existe pas. C'est-à-dire, évidemment, si on est à la tête d'un réseau, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Pour le consommateur lambda, qui, sans le savoir, ou en se doutant, ou en faisant un petit peu, etc., il n'y a aucun risque. Les personnes qui ont pu être ciblées, c'était, alors pas dans le jeu vidéo d'ailleurs, mais plus dans tout ce qui était échange peer-to-peer pour des vidéos, donc des passionnés, des gens qui avaient sur leur serveur plusieurs milliers de films. Là oui, il y a eu quelques poursuites pénales, jamais de prison ferme, et donc c'est surtout un moment désagréable à passer, parce que pour c'est souvent des personnes jeunes qui se retrouvent devant le tribunal sans vraiment comprendre ce qu'elles font là. Parce que elles n'ont pas fait ça pour l'argent, elles ont fait ça par passion, en se disant ah, c'est sympa, on va mettre à disposition des heures, on va échanger entre nous, c'est marrant. Et puis un petit peu la faute qui leur tombe dessus, ils se retrouvent en correctionnel. Ça concerne très très peu de personnes. Je ne sais pas combien il y a eu de procès en France, mais à mon avis moins d'une dizaine.
Je vais revenir à des cas qui sont très très vieux, hein, vraiment à l'époque des ordinateurs 16 bits voire 8 bits, comme l'Atari ST et Amiga. On a eu, moi je me rappelle de gendarmes qui avaient récupéré des informations qui leur avaient donc permis d'avoir des adresses de crackers, ces pirates qui déprotègent les jeux, et qui sont arrivés, hein, qui sont arrivés à 6h du matin, et hop, ils fouillent toute la maison, et là ils comprennent pas. Parce qu'ils se retrouvent en face d'un informaticien en fait, qui achète souvent les jeux, voilà, qui souvent achète les jeux, qui les déprotège, mais qui n'en fait pas un commerce, qui ne fait pas de contrefaçon. Et là, les gendarmes ne comprennent pas. Là, ils se retrouvent face à un monde qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi alors ton intérêt d'enlever les protections des logiciels? Ils pensaient qu'ils allaient retrouver dans le garage des dizaines et dizaines de copies de disquettes et qu'ils les vendaient. Donc, il y a vraiment un problème de compréhension et de communication entre l'industrie, les pirates, le monde numérique. C'est quelque chose, je pense, c'est vraiment un problème de communication et d'éducation générale.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, évidemment, il peut y avoir le cas de réseaux malhonnêtes, pour le coup, qui vont en faire leur métier, qui font de la contrefaçon, mais comme ils feraient de la contrefaçon de sacs Chanel,
ou Vuitton,
ou n'importe quoi.
Voilà, exactement.
Mais là, et eux sont directement visés et concernés par la loi, c'est du pénal, et ils peuvent tout à fait se retrouver en prison pour ça. Mais c'est pas les personnes dont on parle. Là, les personnes dont on parle, c'est des gens qui font ça sans se rendre compte que c'est répréhensible et sans réaliser. Je me rappelle, une fois, j'expliquais tout ça à des étudiants, et puis je voyais dans leurs yeux des petites lueurs amusées, parce que chacun pensait au dernier jeu qu'ils avaient téléchargé la veille. donc, c'est normalement condamnable, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a clairement pas de poursuites réelles qui sont engagées. La seule chose qui peut faire un petit peu mal, c'est si ces personnes ont, dans une quantité non négligeable, téléchargé beaucoup de choses. À ce moment-là, sur le volet civil, elles pourront être tenues de payer des dommages et intérêts qui ne seront pas forcément énormes. Mais quand vous demandez à un jeune de 18 ans de payer 5000 euros de dommages et intérêts,
oui, pour lui,
c'est un gros budget. Voilà.
Alors du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait de savoir où est la limite de ce qui est légal ou pas. Je vais prendre un exemple concret. Alors, nos amis d'Un Drop dans la Mare ont fait une vidéo autour du piratage que j'ai trouvé extrêmement bien faite justement là-dessus, parce qu'il y a un moment donné, vous posez une question que je trouve assez pertinente, où on dit ok, clairement, si jamais tout d'un coup je vais sur un site internet pour récupérer un jeu qui m'appartient pas et que je sais que je n'ai pas payé, je suis un pirate. Ok, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui se passe si je vais chez mon voisin qui est éventuellement un copain, que je lui emprunte le jeu et que je joue chez moi avec ce jeu? Qu'est-ce qui se passe dès lors que cette personne en question, finalement, je la connais pas si bien que ça, c'est pas vraiment un copain, j'emprunte quand même le jeu? Puis vous allez comme ça jusqu'au moment où on arrive à cette fameuse question, quelle est la limite, à partir de quand on devient pirate? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez flou là-dessus, sur tout ce qui est bien matériel. Avant, on avait ce bien matériel, et maintenant que la dématérialisation est là, ça devient un peu plus compliqué de savoir à quelle limite je suis en train de devenir un pirate ou pas. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça a engendré quand même pas mal de légendes urbaines. On a entendu des « oui, tu peux récupérer ça sur ton disque dur, mais il faut pas que tu le gardes plus de 48 heures, par exemple », ou des trucs un petit peu rigolos qu'on a pu lire sur les ROM, par exemple, qui sont bien sûr totalement fausses, parce que dans tous les cas de figure, on est d'accord qu'on est dans l'illégalité la plus totale. Comment se positionne, du coup, le consommateur vis-à-vis de ça ? Tu parlais tout à l'heure, toi, Doug, il faudrait qu'on puisse éduquer les gens. Vous, de votre côté, quelle est votre vision de cet aspect-là ?
Moi, pour moi, pour résumer le piratage, c'est que l'individu, n'importe qui, on se pose sur la notion de coût juste qu'on veut pour acquérir l'objet. Ce coût juste, ça peut être un prix ou la durée de la tentative pour l'obtenir. Donc on peut se dire, pour moi, le coût juste de ce jeu, c'est 5 euros. Voilà, on va dire Watch Dogs, je vais attendre qu'il baisse à 10 euros parce que c'est pas top. J'ai un coût juste dans ma tête. Donc soit j'arrive à prendre qu'une heure de mon temps et je le pirate et je suis content, mais pour moi, il ne mérite pas son 10 euros, donc il ne mérite pas de passer 2 semaines à le pirater. Pareil, si j'arrive pas à le pirater, je ne vais pas aller courir à l'acheter en magasin à 70 euros. Donc la base du piratage, c'est le coût juste que je veux pour l'objet. Et ce coût juste, après, pour le pirater, s'il faut 2 semaines, je ne le pirate pas. Mais si je fais Google watchdog.iso et que je le pirate. Donc pour moi, c'est vraiment le jour où ils mettront une valeur numérique cohérente avec le coût du jeu, le coût ressenti. Hein. Parce qu'il y a des jeux, il y a des gars qui ont passé 4 ans dessus. Et toi, tu dis, ouais, mais moi, ça me donne pas 4 ans d'amusement. Enfin, ça valait pas le coup.
Alors, une question qui est là sur Twitter de Le Maçon qui nous pose la question si, parce qu'on voit souvent effectivement une traduction littérale de 1 euro est égal à 1 dollar dans le monde du jeu vidéo sous plein d'aspects, hein, que ce soit le prix des consoles, parfois le prix des jeux. Est-ce que les éditeurs, du coup, ne prennent pas les Européens pour des cons ?
Non, c'est un peu... Alors, moi, je dirais non, parce qu'en fait, le problème de l'Europe, c'est que ça pose énormément de problèmes de localisation et de lois différentes et de distribution que forcément un éditeur américain va devoir quand même compenser quelque part. Donc c'est souvent pour ça, ils essaient de simplifier la vie
les taxes aussi également.
Donc moi je trouve pas que c'est pas du tout en fait sur ça qu'ils arnaquent. Si quand il y a des arnaques, ils arnaquent les gens. Je pense que c'est assez juste, malheureusement. Après, qu'il y ait des sociétés qui soient entièrement européennes, qui le fassent aussi, là peut-être.
Non, mais en pouvoir d'achat, un euro, c'est un dollar. Hein. Si tu regardes le SMIC.
Oui. En gros, en plus.
Un travailleur au SMIC, il va mettre peut-être, je sais pas, 9 heures à se payer son jeu aux US, il met 9 heures ici à se payer son jeu. Mm-hmm. C'est cohérent.
Mm-hmm. Pour continuer sur la lancée de Rémi,
oui.
Moi je parlerais d'accessibilité aux produits en fait.
C'est très très bien que tu en parles.
Aujourd'hui c'est simple de pirater. Et on pourrait me dire que c'est aussi simple d'aller au magasin pour l'acheter. Mais je dois me déplacer. Personnellement, j'ai regardé Games of Thrones, la saison 5, donc tout le monde sait qu'elle n'est pas encore sortie en France. On me l'a tellement vendue, tout le net parle de cette série.
Je te donnerai ma carte de visite.
C'est ça. Pourtant, tout le monde, hein. Il y a 10 millions de spectateurs.
En tant que Français, je n'y ai pas accès. Et on m'a créé un besoin, et on m'a créé en même temps la frustration de ne pas pouvoir l'avoir. Or, le piratage me permet de le voir, d'avoir accès aux besoins que j'ai besoin d'assouvir. Je pense que le piratage, c'est vraiment une question de... Moi, je suis pas d'accord quand tu dis que... Et tu l'as repris aussi, que les gens, ils sont pas sûrs. Je pense que les gens, ils sont pas cons, ils savent qu'ils piratent. Aujourd'hui, tu parlais d'éducation. Je pense que tout le monde est assez éduqué pour comprendre que le piratage, c'est pas bien, on le sait.
Je nuancerais, il y a quand même des gens, enfin, on a vu des cas où vraiment les gens n'avaient pas conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se doutaient que c'était pas légal à 100%, mais il y a vraiment, enfin, via certaines légendes urbaines, il y a vraiment des gens qui pensent qu'ils sont en train de surfer sur la légalité. Ils pensent pas pouvoir avoir des problèmes.
Ah oui, mais tout à fait.
C'est pour ça que je le précise.
Si, je t'assure. Moi, j'ai fait
il faudrait des pourcentages.
Il faudrait des pourcentages. C'est comme le piratage, c'est très compliqué. Déjà, j'ai rencontré des gens de 40 ans en médiathèque. Ils pensaient que tout ce qui était sur un site internet était contrôlé par les États et tout ça, et que tu ne pouvais pas mettre quelque chose de pirate comme ça et que ça apparaisse sur le site internet. Donc ils se disaient, tout ce que je clique et tout ce que je peux récupérer.
C'est une question de culture
aussi. C'est légal. Ils pensaient vraiment ça. Parce qu'ils n'avaient aucune culture numérique.
Mais dans la majorité des pirates, c'est quand même des gens qui n'ont pas forcément. Enfin, c'est des gens plutôt jeunes en général.
C'est les jeunes, oui. Mais
le jeune, il sait que.
Il y a de plus en plus de vieux qui téléchargent sur le net.
Du coup, t'es un
quelqu'un qui ne fait pas partie de. Quelqu'un qui ne fait pas partie de la génération qui a eu accès aux ordinateurs dans leur jeunesse.
Voilà, petite dédicace à Nathan et Wellcook, je ne suis officiellement pas vieux, ça a été dit.
Voilà, exactement. Si tu as eu des ordinateurs dans ta jeunesse, tu n'es pas vieux. Et je pense que là, il y a un écosystème, il y a des liaisons quand même qui sont vraiment à analyser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la PlayStation, du piratage, du succès de la console en partie à cause de ça, de la PS2 aussi, parce que les gens achetaient, ils disaient, si un jour j'ai plus d'argent pour acheter des jeux, je pourrais quand même mettre une puce. C'est-à-dire qu'en fait, ça les rassurait quelque part. Même si c'était pas des pirates et qu'ils n'avaient pas installé de puce d'office, ils disaient après en fin de vie ou quand j'aurai plus d'argent, je mettrai une puce et puis je pourrais faire tourner plein de choses. Donc c'est le piratage pour les consoles de jeux vidéo, c'est quelque chose qui peut les tuer, mais qui peut les vendre aussi. Donc c'est toujours une arme à double tranchant. Et quand on prend l'App Store aujourd'hui chez Apple ou Steam. Pourquoi on achète un smartphone plutôt qu'un téléphone normal? Parce que le smartphone apporte plein de services. C'est un mini ordinateur dans un téléphone. Et en plus, tous les services qu'on nous propose et les applications sont à très bas prix.
Voire gratuites.
Donc le succès d'Apple avec cet appareil qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, il est dû au soft. Voilà. Donc, quelque part, et ce qui est vraiment triste, c'est que les développeurs, ils payent pour être sur l'App Store, alors que c'est eux qui ont fait le succès de l'appareil pour Apple. Donc, je trouve que quelque part, voilà, c'est un déséquilibre qui est mauvais. Et ce que tu disais était très vrai, c'est si tout est accessible au plus grand nombre, de façon légale, il y aurait finalement très peu de pirates. Le problème des prix des jeux, par exemple, les gens qui sont sur Steam, maintenant qui sont des grands consommateurs de Steam.
Moi, je suis consommateur de Steam, et c'est vrai que je fonctionne.
La plupart étaient dans les gens que je connaissais, qui sont plus jeunes que moi, la plupart étaient des gros téléchargeurs de jeux. Et le jour où Steam est arrivé, ils ont arrêté. Moi, je l'ai constaté. Parce qu'ils se disent. Les jeux sont pas chers, ils sont immédiatement accessibles, j'ai pas besoin d'aller au magasin, j'ai une garantie de pouvoir les re-télécharger si j'ai envie. Exactement comme s'ils étaient sur un serveur pirate en fait. Les top sites, les gros serveurs pirates mondiaux où les groupes de pirates se retrouvent pour uploader les premiers dans le monde une œuvre culturelle, ça marche exactement comme Steam. Et Steam en plus, il y a les promotions, il y a les soldes comme dans le monde matériel, et ça perd.
Pour moi,
c'est un élément qui est en train de convaincre tous les joueurs. Les joueurs, ils se disent, j'ai acheté 30 jeux pendant les soldes,
parce que je vais suis d'accord avec toi, j'ai l'intention, c'est pour ça que Micromania s'est tué tout seul quand il a dit à chaque fois qu'il vend un jeu pour 3€, t'as une garantie 6 mois. Avec un panneau, acheter un jeu en boîte, c'est pas fiable.
Oui, exactement.
Moi, il m'a fait ça 3 fois.
Mais tout à fait. 6 mois, c'est ridicule. C'est ridicule, alors que légalement, je crois que c'est 2 ans.
Et moi, je me suis fait avoir. Il m'a fait flipper
en Europe. Non, c'est incroyable, la méconnaissance de ces magasins.
Le message qu'il envoie, qui est choquant, c'est le fait qu'ils disent le produit n'est peut-être pas fiable, du coup, je t'engage à prendre une garantie.
Exactement. Et le fait. Alors, Micromania, ils ont vu quand même ils ont vu Steam et le démat arriver, tout ça, mais ils n'ont pas réagi.
Et c'est à mon avis ce qui risque de les tuer. Et là, malheureusement, je pense qu'ils ont été très très lents à commencer à prendre conscience d'eux. Pourtant, Micromania, ils sont sur le net depuis très longtemps maintenant. Donc moi, il m'est arrivé d'acheter mes jeux chez eux bien avant l'arrivée de Steam.
Micromania, c'est SFMI, la maison mère de Micromania. Ils doivent exister depuis 80. C'est la première chaîne de magasins.
Ils sont arrivés sur le net relativement vite.
Ils vendaient de la micro avant. Moi, j'achetais des cassettes Amstrad.
Bah, d'où le nom.
Chez Micromania, oui, d'où le nom.
Et du coup, tu vas exactement dans mon sens. C'est que le piratage, c'est une question d'accessibilité.
Exactement, éducation, accessibilité.
On en vient à une question qui a été posée tout à l'heure par Coca Impact qui nous disait, c'était une de mes questions, ça tombe très très bien. En fait, je prends un exemple concret. Moi, il y a des jeux auxquels j'ai envie de jouer que je ne peux pas acheter dans mon pays. j'ai pas le droit de l'acheter dans mon pays. Légalement parlant, je n'ai pas le droit de le faire. Moi, ces jeux, j'avais vraiment envie de les faire pour des raisons déjà culturelles. J'avais envie de les essayer. Et puis aussi pour des raisons de podcast, puisque je travaille sur d'autres podcasts et j'avais besoin de pouvoir en parler, donc de pouvoir savoir de quoi je parlais. Donc je les ai récupérés de manière ou parfois illégale, parce que j'ai pas trouvé d'autres méthodes pour le faire, ou parfois en passant par des Amazon JP ou etc., en passant par des chemins détournés, et c'est pas toujours évident, parce que même en passant par chez eux, il y a certains éditeurs qui n'acceptent pas de l'acheminer jusqu'en France. Du coup, ça suscite également du piratage. Est-ce que là-dessus, les éditeurs n'ont pas leur part de responsabilité?
Parce que juste, tu peux détailler un jeu que tu pouvais pas légalement acheter en France?
Qu'est-ce que je vais vous trouver comme exemple? Il faudrait que je trouve un jeu sur Xbox, parce
un
que...
Shmup, un
shmup, par exemple.
Comme Ketsui, par exemple.
Merci, très bon exemple.
Pourquoi c'était interdit?
Ah bah parce que tout simplement... Alors, on a le choix de l'éditeur du jeu a le choix sur Xbox de choisir la zone de compatibilité donc du jeu. Et pourquoi dans le cas, par exemple, des shmups japonais, ils ne mettaient pas en compatibilité internationale? Parce qu'eux, ils espéraient qu'un éditeur européen, par exemple, l'achète. D'accord. Pour pouvoir l'éditer en Europe.
Ils achètent les droits d'exploitation pour certains pays.
Voilà. Et c'est pour ça qu'ils le faisaient.
En fait, c'est pas du plan marketing.
Voilà. Ils se disaient, avec un peu de chance, on a quelqu'un qui va nous lâcher, au lieu qu'eux, ils le sortent eux-mêmes. Voilà.
Parce qu'ils savent que ce type de jeu plaît pas forcément aux Européens.
Donc, bloquer l'accès, c'est frustrant du coup.
Ouais. Ma console, elle est canadienne. On m'a acheté il y a quelques années Medal of Honor, et sans savoir qu'elle était canadienne. Et du coup, j'ai dit au gars, bah merci, mais non.
Mais est-ce que quand tu joues à Medal of Honor sur une console canadienne, est-ce que les gens ont un accent?
Non, mais ils décollent pas.
C'est surtout ça qui m'intéresse, l'accent.
Mais j'avais une question Twitter. Ouais.
Mais on a.
Alors, lorsque des jeux anime Jap sortent en Europe grâce aux fans qui ont créé une communauté en piratant piratage profitable juste, donc c'est Jean-Michel qui nous pose la question. Alors je ne sais pas si c'est juste ou pas. En tout cas, effectivement, c'est une bonne question. Il y a des animes qui ne viennent pas jusqu'à chez nous. Moi, il m'arrive régulièrement d'en consommer via des streams, par exemple.
Mais c'est exactement la même problématique qu'on a eue avec les RPG en France. Les gens qui jouaient au RPG en France sur console, ils prenaient que de l'import parce que les filiales d'éditeurs français disaient, notamment même Nintendo France, le RPG ne marchera jamais en France.
Moi, j'ai découvert Dragon Quest grâce au piratage.
Et donc, effectivement, c'est les fans les plus hardcore qui, en important des œuvres, créent la communauté et en parlent. Et alors aujourd'hui, à l'époque, dans les années 80, c'était un peu underground. Il fallait communiquer par les fanzines, par le Minitel. Aujourd'hui, avec un Internet qui est globalisé, qui est mondialisé, on ne peut plus en fait créer des frontières culturelles aux œuvres. C'est impossible. C'est essayer de régler un problème de plomberie avec des Kleenex. C'est pas possible. Donc il faut que l'industrie s'adapte, qu'elle devienne globale. Sinon, c'est...
Donc, en fait, l'industrie est obligée de se mondialiser.
Exactement.
Mais jusqu'à maintenant, on explique pourquoi les gens piratent. Mais est-ce que ça légitimise le piratage comme...
C'est effectivement la vraie question, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le piratage, entre guillemets, je suis d'accord que c'est pas un terme très approprié, permet de faire avancer les choses. Ça me paraît assez évident. Ne serait-ce que si on revient basiquement à je suis une entreprise et je vais investir là où ça marche, si tout d'un coup tout le monde se met à pirater quelque chose, ça prouve que ça marche, qu'il y a une vraie demande et donc on va aller dans cette direction. Donc c'est assez logique et ça va permettre de faire venir un produit sur le marché. Donc oui, il y a un vrai travail d'éducation, on est un peu leader d'opinion en quelque sorte. Après, est-ce que ça le justifie? C'est toujours pareil, il y a une question entre guillemets d'éthique, puis une question légale. La question d'éthique, chacun aura sa position et on peut en discuter très très longtemps. Question légale, la réponse, elle n'est pas nuancée, c'est-à-dire que la réponse est nulle. Point.
Mais oui.
Ou c'est légal ou ça ne l'est pas. Ouais.
Mais tu vois bien que dans cette histoire-là, le droit, en fait, il succède à l'établissement moral. C'est-à-dire que c'est jamais le droit qui pousse le truc. Le droit, il dit, oh, on ne sait pas, ça fait 10 ans, on ne sait pas. En fait, on a l'impression que c'est à nous de prendre la décision.
Le droit, c'est tout à fait.
Bah, il n'applique pas, donc il ne sait pas. Oui, mais il n'applique pas, il ne tranche mais... pas le débat.
Si,
le droit
si,
ne tranche pas le débat.
Mais parce que pour le droit, pour le coup, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que si tu viens en disant... si toi, tu es un éditeur ou un développeur, peu importe, et tu viens en disant... Moi, j'ai développé un jeu pour qu'il soit commercialisé au Japon, et je me rends compte qu'il y a des copies qui sont importées, et exploitées et copiées illégalement en France... c'est une contrefaçon, le tribunal te dira oui, c'est une contrefaçon.
Si tu me prêtes ton jeu, si tu me prêtes ton film, si tu me prêtes un DVD, un film, est-ce que c'est légal ?
Oui, bien sûr.
Si tu me le prêtes pas physiquement, mais que tu me le streams, et moi je me connecte sur internet, tu me le streams, donc je te mets ton streaming.
Alors, je dirais que non, parce que en réalité, puisque tu es sur du dématérialisé, tu vas être sur un contrat de licence, et si les choses ont bien été faites dans ton contrat de licence, il sera indiqué que tu peux pas passer à un tiers. L'œuvre exploitée de manière dématérialisée. Et si tu le fais, tu violes ton contrat de licence.
Donc si tu l'envoies par la poste, c'est bon.
Non, parce que par la poste, ça veut dire que tu fais pas partie de mon cercle familial.
Ah. Et si t'es mon frère et que tu m'envoies par la poste,
ça va.
Oh purée, c'est.
C'est assez compliqué.
Ah bah si, c'est
mais après la loi, quand même, comme on est en train de passer de plus en plus, on a quand même le combat de la société numérique, enfin pas le combat, en tout cas la collision de la société numérique et de la société capitaliste qui est issue du monde industriel. Quoi, voilà. Le problème, c'est que les lois aussi, il faut qu'elles s'adaptent. Mmh. Et ça, c'est très compliqué pour les lois de suivre, parce que le changement technologique et l'usage numérique, il avance très très rapidement. Hein. Les enfants qui naissent aujourd'hui avec Internet, moi, ils m'impressionnent. Ils vont très très vite. Et derrière, il faut que ça suive et c'est dur. C'est dur pour que tout suive.
Ce qui est compliqué en plus, c'est que là, on explique aux utilisateurs qu'ils ont le droit à une copie numérique de sauvegarde de leur jeu, par exemple. Mais en l'occurrence, si moi je ne sais pas faire une copie numérique de sauvegarde, peut-être je vais aller la chercher sur le net. Mmh. Et là, je me rends compte que peut-être que la copie que je vais récupérer, c'est pas, par exemple, je sais pas, j'ai un jeu sur ma PlayStation portable et je récupère sans le savoir la version 3DS. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il ne s'agit plus du même jeu, même s'il y a le même titre dedans, même si le jeu est totalement identique à l'intérieur. Le fait est que le jeu a été développé pour un autre support, donc légalement parlant, sauf erreur de ma part, Henri, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce n'est plus le même jeu, donc là je rentre dans l'illégalité.
Bien sûr.
Oui, tout à fait. Alors, il faut relativiser. Faire l'illégalité, moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais concrètement, ça veut dire que.
Je suis dans l'erreur.
Voilà, on va dire que tu es dans l'erreur. Bon. Je voudrais rebondir juste sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y a effectivement constamment un décalage entre la technique et le droit. Notamment dans le jeu vidéo. Et là, pour le coup, effectivement...
Tu voulais peut-être dire même particulièrement dans le jeu vidéo.
Particulièrement dans le jeu vidéo, où on essaye d'appliquer des règles qui sont pas forcément en relation avec la complexité de cette œuvre qu'est le jeu vidéo. Alors, je sais pas, il y avait une question tout à l'heure.
Oui, Draxid qui nous pose la question en fait de savoir si, un peu comme dans Diablo 3, si du coup, le fait d'en passer par des serveurs, c'est l'avenir du jeu vidéo pour contrer le piratage. Si le fait que tout d'un coup...
Tout à l'heure, on parlait d'accessibilité de l'œuvre. Quelque chose qui a vraiment, et on a parlé tout à l'heure, choqué les utilisateurs qui achetaient leur DVD, leur Blu-ray, leur jeu, c'est qu'en fait, ils avaient des problèmes d'utilisation que n'avaient pas ceux qui... downloader donc la version pirate. Alors, encore une fois, j'aime pas ce mot parce que pirate, c'est pour moi, c'est voler quelque chose. Et comme vous le disiez dans votre vidéo, en fait, dans le monde numérique, on vole pas. C'est-à-dire, on n'enlève pas quelque chose à quelqu'un pour l'avoir, on le duplique.
Mais légalement,
la contrefaçon qui rentre.
Parce que le vol, c'est la soustraction du bien d'autrui. Est-ce que je peux soustraire un bien numérique?
Oui, bien sûr. Mais on n'appellera pas ça, pas vol, on appellera ça contrefaçon.
Ouais,
Donc il y a une vraie nuance entre les deux.
C'est un bien.
Voilà.
Immatériel.
Donc on revient à la question. Donc les éditeurs, ils se sont dit bon, on investit des millions de dollars dans des protections comme la Star Force, qui était une protection connue pour avoir des problèmes sur des tas de lecteurs DVD et CD. Ils ont arrêté et ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, parce que d'un côté les pirates ils déplombent la protection en 2-3 jours maximum, les utilisateurs on les perd parce qu'on les fait chier, donc va falloir trouver un truc, et actuellement vraiment la mode c'est de demander une connexion internet pour valider la clé que tu as avec le jeu, ce qui pose encore d'autres problèmes parce qu'on peut générer des clés. On peut faire du reverse.
Les voilà. Utilisateurs à être connectés là où ils ont pas
forcément. Voilà, exactement. Alors ça les oblige à être connectés. Comme des pirates font du reverse engineering, bah, ils savent générer les clés comme les éditeurs. Donc ils empêchent quelqu'un qui a acheté son vrai jeu avec la clé, des fois, de se loguer, puisque sa clé est déjà prise, alors il ne comprend pas. Donc il y a quand même plein de problématiques. On ne peut pas passer entièrement dans ce mode-là, et ils ne le font pas certainement à cause de ça, parce qu'il y a d'autres problématiques à résoudre. Après, sans compter la problématique de préservation du jeu, parce que avec le cloud gaming ou les jeux en streaming ou les jeux avec connexion obligatoire, bah une fois qu'on n'a plus de connexion, on ne peut plus jouer. Et si on veut montrer ces jeux-là, si ça devient voilà, de la culture et qu'on veut les montrer dans 200 ans à des gens, bah on ne pourra plus parce qu'il n'y aura plus les serveurs qui tourneront. Donc c'est énorme, c'est très très complexe.
Une question que je souhaitais vous poser après. Là, on parle de la préservation du coup de l'œuvre. Est-ce qu'à certains moments, du coup, le pirate n'a pas une fonction salutaire justement pour préserver l'œuvre vidéoludique qui a tendance à disparaître parce que les éditeurs ne font pas eux-mêmes ce travail?
Ah bah un exemple vraiment très simple, on prend le Xbox Live, le XBLA sur 360, au bout d'un moment, ils enlevaient des jeux. Ah bah ça nous prend de la place sur nos serveurs, bah fallait on dégage Street of Rage. Le seul moyen de trouver Street of Rage version XBLA qui existait à l'époque, c'est la préservation qui a été faite par les pirates. Et qui l'ont gardé sur un serveur parce qu'ils ont pompé les fichiers du jeu et ils ont mis ça de côté pour éventuellement un jour s'il y aura une émulation pour pouvoir y jouer. Voilà.
Donc là, comme on l'a exprimé tout à l'heure, il y a le cadre légal, c'est illégal, mais il y a effectivement cet aspect éthique. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas ce côté pour la préservation du patrimoine culturel, justement, l'intérêt.
Une réflexion que j'avais.
Militant, j'ai presque envie de dire, du coup.
Sur la plupart des grands sites de musique, où je peux les acheter légalement en téléchargement, au final, j'ai les œuvres mainstream. Mm-hmm. Et si je veux écouter la symphonie de Bach, je ne vais pas la trouver sur ce site-là. Alors que, du coup, je vais devoir la pirater, si je veux vraiment. Ou l'acheter en CD, mais si je le veux en dématérialisé, ouais. Il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas mainstream. Du coup, le fournisseur iTunes ou autre se dit que ce n'est pas rentable de la mettre en ligne.
En parlant de rentabilité, nous, on va faire une courte pause publicitaire. Et puis, je vous invite à ne pas partir trop loin de votre écran parce qu'on revient dans 3 petites minutes. À tout de suite. Okay. Et rebonsoir, on est là pour la troisième et dernière partie de Démage sur le piratage. C'est toujours TMDJC. Je suis toujours accompagné de Thomas, de Rémi, d'Henri et de Doug.
C'est cette partie où il va y avoir de la baston.
Et c'est cette partie-là, voilà, on va se taper dessus, exactement. Tout à l'heure, on était en train de parler du bon côté du piratage, dans le sens où effectivement il y a cet aspect de préservation. Il y a le fait qu'on mette souvent des bâtons dans les roues. Aux consommateurs, c'est vrai qu'on suscite beaucoup de choses et qu'on leur donne pas forcément les moyens derrière de pouvoir consommer comme ils le souhaiteraient, avec des prix qui sont parfois jugés trop imposants. Mais on n'a pas vraiment creusé du côté des éditeurs et des créateurs le mal que pouvait faire le piratage. Et c'est vrai quand on lit les réactions sur les forums, par exemple, on a un petit peu l'impression d'un monde, on en parlait tout à l'heure en off manichéen, où on a les gentils pirates face aux méchants gros éditeurs. Donc si on pouvait un petit peu justement nuancer ça, au niveau du piratage, on a vu que les éditeurs avaient parfois peut-être pas la bonne réaction, mais on peut quand même concevoir que c'est effectivement un manque à gagner important. Mais qu'en est-il vraiment des créateurs en eux-mêmes? Parce que c'est la partie la moins visible de l'iceberg. Et c'est eux, en général, c'est un petit peu... Alors que sans eux, il n'y a pas de jeu. On a un petit peu l'impression que, pécuniairement parlant, c'est la dernière roue du carrosse.
Oui, mais ça n'intervient pas dans le processus de création, le piratage?
Non,
ça vient sur la table. Hein.
Non, mais on est d'accord.
On est d'accord.
Donc en fait, il n'y a pas de piratage vis-à-vis du créateur. Donc en fait, là, grosso modo...
Plus complexe que ça.
Attention. C'est dans ce processus.
Dans le processus de création, mais après.
Après, c'est la guerre.
Il y a deux choses. Alors, déjà, je pense qu'il faut un peu nuancer sur cette notion de créateur. Dans le jeu vidéo, il y a vraiment deux mondes. Il y a les petits studios... qui ont énormément de difficultés, et puis il y a les grosses machines de guerre. Mais il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que même dans ces grosses machines de guerre, derrière l'entreprise, il y a des créateurs, il y a des artistes, des gens passionnés. Et que ça soit un créateur qui bosse dans un petit studio ou un créateur qui bosse dans une grosse machine, lorsqu'il se rend compte qu'il y a des gens... Alors c'est pas... chacun réagit comme il le veut. Hein. Il y a des gens qui n'ont aucun problème avec le piratage, au contraire, qui diront c'est super, ça veut dire que ce que j'ai fait c'est bien, et puis moi je suis pour le partage universel et tout très bien. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas réagir comme ça. D'abord, il y en a d'autres qui vont avoir le sentiment vraiment d'être volés, en particulier dans les petits studios. Ben, ils vont prendre ça comme une injustice absolument énorme, en se disant qu'ils se sont littéralement saignés pendant plusieurs mois, et que ce qu'ils espéraient pouvoir enfin leur ramener un petit peu d'argent, tout d'un coup, bah, comme c'est complètement piraté, c'est raté. Et ils le vivent vraiment comme une injustice. C'est impressionnant, ils se sentent volés. Et pour les créateurs dans les plus grosses machines, le sentiment est évidemment différent, parce que eux, bah, leur salaire tombe à la fin du mois, donc c'est différent. Mais c'est une aventure. C'est plusieurs mois de travail, et quand ce qui aurait dû être l'accomplissement de ce travail d'une équipe, d'un groupe, se retrouve en libre disponibilité, tout le monde n'apprécie pas.
Alors ouais, je vais aller dans ton sens, en fait, parce qu'aujourd'hui on a parlé tout à l'heure du chiffre du piratage qui est... Enfin, on ne peut pas avoir de données très fiables. Aujourd'hui on a quelque chose de supplémentaire par rapport à, depuis quelques années, par rapport à toute à l'époque du début du piratage. Et quand tu parles des petits développeurs, c'est exactement ça. C'est le problème du piratage il y a quelques années, c'est que voilà, un petit développeur, bah, il vendait 5000 exemplaires de son jeu. Bon, il disait voilà, bah, les gens l'ont peut-être piraté, mais ça se trouve, ils l'ont pas aimé, ça se trouve, il est vraiment mauvais. Donc ça n'a pas plu aux gens, il se fait une raison.
Aujourd'hui, il posait la question tout à l'heure, justement, lui il pirate tous ses jeux, il les achète derrière, si jamais il les a trouvés bons, il trouve normal de pouvoir tester ses jeux avant.
C'est une manière de consommer comme une autre, même si elle n'est pas légale. Mais aujourd'hui on a des jeux qui sont connectés, et c'est là où on commence à avoir un peu plus mal en tant que petit développeur. Quand on a sorti un jeu et qu'on en a vendu 40 000, et qu'on voit que sur les serveurs, il y a 400 000 joueurs qui sont en train d'y jouer, là on peut commencer à avoir mal, parce que là on a une donnée chiffrée du nombre de personnes qui ont piraté le jeu. Et moi je pense que c'est surtout ces chiffres-là qui sont importants, c'est-à-dire que...
Mais toi, à la place, tu sors un bouquin, il est dupliqué sans ton accord, même si t'en vends que 10 000, t'es pas content, c'est pas une raison de nombre. Si toi, comment tu réagirais, toi? Tu sors un bouquin, paf, ça se part en mode PDF.
Moi, ça va pas être le bon exemple, hein, parce que c'est moi qui mettrais le PDF direct sur le réseau. Mais ce que je veux dire, c'est que là, avec les jeux online, on peut avoir une donnée chiffrée. C'est-à-dire que là, ça peut faire vraiment mal comprendre.
C'est indépendant. Si tu pars 4 mois de ta vie à faire un boulot que tu veux vendre, et que ce boulot, tu peux pas le vendre parce qu'il est diffusé gratos.
Oui, mais encore une fois, les petits développeurs, la plupart que je connais, savent que le piratage fait partie de l'ADN du numérique et donc du jeu vidéo. Mais ils savent très bien que des gens vont downloader le jeu et ça se trouve, ils vont pas aimer, ils vont faire ah, d'accord, je l'ai downloadé. Ils vont pas en vouloir aux gens qui l'ont downloadé, qui le gardent et qui y jouent pas. Par contre, ils vont en vouloir aux gens qui y jouent de longues semaines ou voire des mois, et qui ne rétribue pas ce plaisir au développeur qui a fait son jeu avec amour.
Donc tu dis que concrètement, tu es en train de dire ça ne les dérange pas, enfin en tout cas ceux que tu connais, ça ne les dérange pas que les gens testent le jeu, véritablement, qu'ils aient envie de mettre les doigts dessus, voire même ça peut être agréable, mais si derrière effectivement quelqu'un l'utilise comme si, bon, récupérer une bagnole, je l'ai testé, elle me plaît, je l'achète, si jamais je continue à l'utiliser constamment en disant oui, de toute façon je ne l'aurais pas acheté, enfin, en attendant, tu as roulé 15 ans avec.
Exactement. Et si, par exemple, un jeu est donc distribué sur Torrent et qu'il y a 4 milliards de downloads.
En fait, vous êtes carrément pour les free-to-play, les mecs. Vous êtes carrément pour les free-to-play, les paiements.
Pas obligatoirement, mais si, par exemple, il y a 4 milliards, s'il y a 4 milliards de downloads, il y a 4 milliards donc de gens qui vont essayer le jeu. Il n'y aurait pas ces downloads, ça se trouve, il y aurait 10 000 personnes qui auraient acheté le jeu pour de vrai. Là, il y a 4 milliards de personnes qui essayent le jeu, et donc dans les 4 milliards, il y a toujours un pourcentage qui va l'acheter.
Mais c'est du free-to-play ce que tu racontes là.
Pas obligatoirement.
Ça existe déjà, ce modèle.
Le free-to-play, c'est qu'une évolution du freeware et du shareware. L'informatique à la base, c'est on donne tout gratuitement. C'est vraiment la base de l'informatique. Et des gens comme Bill Gates se sont servis de choses gratuites pour faire des.
Ah, ce que tu racontes, c'est bien, ça a bien aidé l'économie.
Ouais, ouais. Mais bah, c'est ce voilà, exactement. Exactement. Moi, ça m'est arrivé de télécharger des programmes et de cliquer sur le bouton PayPal. Parce que le download du programme était
gratuit. On a des profils particuliers. Voilà. La preuve, on est ici.
Il y a peut-être une question pour toi, là, Doug. Pensez-vous qu'une démarche à la Humble Dumble qui permet de récupérer un exemplaire de BioShock par exemple
Bien sûr, c'est comme les soldes et comme Steam, on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, moi je pense qu'en fait c'est vraiment ce que les petits auteurs, les petits studios de dev n'aiment pas, c'est les gens qui jouent vraiment à leur jeu sans payer, sans rétribuer leur travail. C'est pas les gens qui l'ont juste téléchargé, qui l'ont essayé, qui ont dit « Ah c'est cool, je me mets dans le coin de mon disque dur et plus jamais je le relancerai, peut-être pour le montrer à un copain qui lui l'achètera ». C'est pas ça, c'est vraiment les gens qui y jouent et qui payent pas, qui vont pas récompenser les auteurs. C'est ça qui fait mal intérieurement, ouais, je pense.
J'entends ce que tu dis. On peut pas parler à la place des autres.
Oui.
En plus, il y a autant de situations que d'auteurs, que de studios, etc. Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il y a une question d'éducation, et c'est vrai que on a tendance à considérer que tout est gratuit, puisqu'on a accès à quasiment tout. Donc, il y a également ce sentiment un petit peu d'injustice en se disant mais pourquoi on me demande de payer alors que jusqu'à présent c'était gratuit.
Mais
par rapport aux studios, il faut voir qu'en France aujourd'hui, il y a des studios. D'abord, il y a beaucoup de difficultés financières dans les studios. Il y a des studios qui disparaissent tous les jours, alors que la France est vraiment très très réputée pour la French Touch dans le jeu vidéo. Moi, je suis pas certain que les petits studios fassent la différence entre les passionnés qui payent et ceux qui payent pas. Je pense qu'à un moment donné, à la fin du mois, ils ont besoin de payer les salaires, de payer les loyers, les licences, etc. Et le piratage pour ces studios reste un frein. C'est-à-dire que ils ont besoin d'être rétribués légitimement par rapport au boulot qu'ils ont fait. Et donc, du coup, peut-être effectivement qu'il y en a certains qui ont cette approche qui consiste à dire « moi, j'ai pas de problème qu'on utilise mon jeu, mais... si on l'utilise beaucoup, soyez sympa, payez-moi. » Je voudrais rappeler quand même que, ouais, c'est vrai, mais il y a aussi une réalité économique derrière. Les gens doivent manger et malheureusement, le piratage, parfois, est un frein pour leur permettre de manger.
Vraiment. Pour aller dans ton sens, tout à l'heure, on parlait d'éducation. Moi, j'ai une fille de 8 ans et l'autre jour, on regarde je ne sais plus quel anime. Elle me dit « Est-ce que tu as la musique de cet anime ?» En l'occurrence, je ne l'avais pas. Elle me fait, mais est-ce que tu peux la récupérer? Elle ne s'est pas posé un seul moment la question de savoir sous quelle forme j'allais la récupérer. C'est comme si tout d'un coup, en fait, j'ouvrais mon PC et qu'il y avait une boîte magique et que je récupérais l'information. Et oui, il a fallu qu'on discute justement de cet aspect-là. Et en tant que moi, même en tant que père, il y a des moments où je ne sais pas comment me positionner parce que la légalité est encore quelque chose qui est un peu abstrait pour elle. Je dis, voilà, on n'a pas le droit de faire ça, ça coûte tant, etc. Mais c'est des notions qui sont effectivement assez, assez abstraites. Et oui, peut-être qu'il faudrait effectivement plus d'éducation à ce niveau-là, plus de prise de conscience de ce que ça fait, tout simplement d'imaginer que si vous alliez vous bosser, qu'importe où vous allez bosser, puis qu'il y a une journée où on vous dit bah, là cette journée on te la paye pas en fait d'ailleurs c'est pas un bon exemple parce que l'État nous fait déjà ça, il faudrait qu'on parle de ça un jour mais bon, voilà, si jamais tout d'un coup il y avait une partie du salaire qui n'était plus payée parce qu'on avait décidé que bah voilà, parce que tu l'as payé, elle est comme ça, on te la paye pas.
Pour rebondir sur le Bumbledale, ok, c'est une offre légale, mais il y a quand même une partie de l'argent qui va à la charité. C'est l'argent qui devra aller à l'éditeur quand même. Mm-hmm. Enfin, au développeur en tout cas. Développeur développe un jeu. C'est comme si demain tu vas acheter ta baguette et tu dis moi je vous paye que 90 centimes et les 10 centimes restants je les donne à la Croix-Rouge par exemple. C'est ce qui me gêne dans le Bumbledale, mais bon, ça reste quand même une offre légale. Sinon, pour rebondir, j'aurais une question pour un juriste, donc ça tombe bien que tu sois là. mes filles sont plus jeunes, donc je ne peux pas avoir ce débat avec elles. Par contre, elles sont fans de Petit Ours Brun, qui
c'est
sont
dur,
disponibles.
C'est dur, mais... Tu veux que je te passe le générique?
Du coup, elles le voient sur YouTube, les dessins animés passent en boucle, ouais. Alors qu'ils sont disponibles en DVD. Et à partir... La vidéo est disponible sur un... C'est légal, mais est-ce que c'est toujours légal si au final elle passe 10 fois par jour et que j'ai pas acheté le DVD?
Moi, c'est pas la question. YouTube est censé avoir conclu un certain nombre de contrats avec des grosses sociétés de production. Il y a eu de gros procès entre les producteurs de contenu et YouTube, et qui en général sont soldés par des accords, au titre desquels YouTube reverse une partie des redevances publicitaires à ses producteurs de contenu. Donc normalement, si les choses sont bien faites, si chacun a fait son boulot, à chaque fois que ta fille regarde Petit Ours Brun, qui est fort sympathique, au demeurant, il n'y a aucun problème parce que tout le monde est rémunéré à juste titre.
Oui et non, parce que, et c'est là où on avait une autre question, il y a de plus en plus de logiciels qui permettent de bloquer la publicité, et donc en fait peut-être que là je me retrouve sans le savoir avec un logiciel que j'ai téléchargé totalement légalement, à me retrouver avec un outil qui va peut-être empêcher YouTube de pouvoir récupérer de l'argent et donc de le reverser aux personnes qui ont participé du coup à la mise en ligne de telle ou telle vidéo. Est-ce que quand j'utilise du coup des logiciels comme Adblock, j'en passe à des meilleurs, je me retrouve dans l'illégalité? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que je suis un pirate?
Tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est exactement la deuxième partie de ma question.
Oh là là,
c'est une sacrée question. J'en sais rien.
Du coup, non, alors... Alors, si légalement c'est.
Juridiquement, c'est un peu plus.
Si juridiquement c'est un peu plus flou, en tout cas pour moi qui ne suis pas de la profession, moralement, je me pose quand même la question. Parce que je me dis, du coup, effectivement, il n'y a pas les revenus publicitaires qui devraient normalement aller aux producteurs. Et pourtant, ça reste une offre légale.
Non, mais c'est ça.
Je suis entièrement dans la légalité.
La seule vraie question, c'est de savoir si l'éditeur de contenu est d'accord. À partir du moment où il n'a pas dit à YouTube « je t'interdis de diffuser mes œuvres dès que tu constates qu'il y a un blocage de publicité », il n'y a pas de problème. Là où ça devient plus compliqué, c'est s'il y a un accord, justement on dit qu'il faut qu'il y ait de la publicité, et qu'on télécharge un logiciel qui bloque la publicité, là effectivement on peut peut-être se poser plus de questions. YouTube, c'est quand même spécial, c'est-à-dire qu'à aucun moment, par exemple...
Je pourrais te dire la même chose sur le site de Canal+, ou Dailymotion...
Non, Dailymotion et YouTube, oui, Canal+, non. Pourquoi je dis c'est spécial? Parce que, sauf erreur de ma part, quand on va sur YouTube, à aucun moment, on coche une petite case en disant « j'accepte les conditions générales ». Je suis sûr que si on regarde dans les conditions générales, il est certainement indiqué qu'à partir du moment où je suis sur YouTube, c'est que j'accepte leurs conditions générales. Mais je suis pas sûr que ce genre de rédaction soit valable. Normalement, je pense qu'il faut dire ouais. Ok, je les ai lus et j'accepte. Du coup, il est probable que dans les conditions générales de YouTube ou de n'importe quel autre diffuseur, il est indiqué que on peut pas manipuler, on peut pas bloquer les pubs, etc. Et toutes ces chaînes ont fait d'énormes efforts justement pour lutter contre la contrefaçon, pour permettre de signaler des contenus problématiques, etc.
Et je crois qu'il y a Chad qui a une question pour toi, Henri, parce que moi, j'ai retenu ton prénom.
Alors, Seb, pour te répondre à propos de YouTube, ils viennent de développer un outil pour contrer Adblock.
D'accord.
Alors, qu'ils sont en train d'installer.
Et alors donc Chad nous dit les créatifs et développeurs en général sont rémunérés au lance-pierre pour 90% d'entre eux. C'est probablement vrai. Alors, faut voir encore. C'est-à-dire que.
Je fais une courte parenthèse parce qu'il y a FQPEH qui nous a envoyé un tweet également juste avant qui faisait la remarque. C'est son pseudo. qui nous faisait la remarque. Du coup, il y avait effectivement toute une partie des créateurs qui, eux, n'ont effectivement ne gagnent pas grand-chose. A contrario de ceux qui sont à la tête des grands groupes qui, eux, gagnent beaucoup plus. Est-ce que c'est pas toute l'industrie qu'il faut revoir en fait? Mais là, tu ne pourras peut-être pas répondre à cette question.
Alors je voudrais quand même corriger quelque chose. Les petits studios, c'est souvent des aventures humaines.
C'est pour ça qu'on faisait bien le distinguo entre les deux groupes.
Qui vont pas se payer pendant des mois, voire pendant des années. Et dans ce type de studio, il n'y a pas de distinction entre le patron, entre guillemets, le créateur.
Sont parfois la même personne.
Ils sont souvent les mêmes personnes. Et c'est plus la débrouillardise, et on fait en sorte d'essayer de survivre jusqu'à ce qu'on sorte le jeu, en espérant qu'une fois qu'on aura sorti le jeu, on verra un petit peu de lumière. Ce qui se passe dans les grands groupes, ça, la manière dont les gens sont rémunérés, j'ai envie de dire, c'est chacun jugera si c'est valable, pas valable. Il faut aussi se rappeler quand même une chose, c'est que quand on crée quelque chose, on est fier de sa création en général. Mais on n'est pas le seul créatif, ça reste un marché extrêmement concurrentiel. Et qu'on soit d'accord, pas d'accord, que ça soit critiquable, pas critiquable, on reste dans un système où on est rémunéré en fonction de la valeur qu'on apporte. Et de la valeur marchande, je ne parle pas de la valeur artistique. C'est pour ça, c'est encore une fois, on peut en débattre pendant des heures. Mais quelle est la valeur marchande qui est apportée ? Et donc un petit créateur, petit pas dans le sens péjoratif, mais c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas reconnu par la profession et dont le nom ne fait pas vendre, et ben oui, il sera rémunéré au tarif en vigueur.
Mais j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est parfois difficile à comprendre pour aller dans le monde de la bande dessinée, qui n'est pas vraiment le monde vidéoludique, mais qui est un lieu que je connais bien également. On se rend compte que les dessinateurs, qui sont à l'origine, alors je parle même pas de quand il y a un scénariste et un dessinateur, mais là je parle vraiment du dessinateur-scénariste qui gère l'ensemble de l'œuvre, se retrouve à être celui qui est parfois le moins payé de toute la chaîne. Je dis parfois, c'est même souvent. C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression, du coup, là-dessus, que le monde marche sur la tête, parce que est-ce qu'il est normal, et là on parlait d'éthique tout à l'heure, effectivement, que ces personnes-là se retrouvent avec si peu de moyens derrière. Il y en a qui sont parfois payés moins que le SMIC, alors qu'il y a des bandes dessinées qui fonctionnent bien. C'est vrai qu'il y a un petit côté étrange. Tu disais tout à l'heure, ils sont payés en fonction de la valeur marchande. Sans ces gens-là, l'œuvre n'existe pas du tout. Dans ce cas-là, donc on peut se poser la question de savoir si c'est réellement le cas.
Je te rejoins tout à fait. Il y a des choses tout à fait inacceptables et absolument anormales. Évidemment, c'est absolument incompréhensible qu'un auteur, quel qu'il soit, en tout cas dans une œuvre comme une bande dessinée, soit la dernière roue du carrosse. Oui, c'est problématique, c'est bizarre, le monde marche sur la tête. Mais c'est une question un petit peu différente, je pense. Enfin, moi, je trouve que c'est une question différente de celle qui était posée. C'est-à-dire que, oui, les créateurs ne sont pas forcément bien payés. C'est vrai, on peut trouver ça absolument désolant. On peut se dire, effectivement, quelqu'un qui se lance dans la création, qui met ses tripes, on a envie qu'il soit bien rémunéré. Mais ce n'est pas toujours possible.
Alors, moi, personnellement, pour donner un exemple comme celui que vous avez donné tout à l'heure sur Game of Thrones, ça m'est arrivé donc de downloader un jeu, de le craquer et tout.
Tu sors.
D'y jouer. Et pour des raisons éthiques, voilà, même si c'est pas légal, de ne pas vouloir donner de l'argent à l'éditeur. Et donc d'aller chercher sur le net un moyen de donner de l'argent directement aux auteurs, qui avaient été entre-temps virés. Le studio a été démantelé par l'éditeur.
Je pense que...
Voilà, pour...
Dis non.
Pour en fait directement de remercier les auteurs et donc outrepasser l'éditeur. Et on a eu une grosse problématique au niveau matériel, c'est-à-dire le jeu distribué en boutique en France, c'est que quand on regardait les sortes de camembert, on regardait le détail, la répartition de l'œuvre et ce qui arrivait au studio, on voyait que c'était des fois trois fois moins que ce que gagnait le distributeur du jeu. Et moi, j'ai toujours trouvé ça injuste. Alors après, c'est peut-être la société capitaliste et la façon dont tout marche qui est...
Moi, j'ai rien entendu sur le...
Qui n'est pas...
C'est intéressant ce que tu dis, et pour revenir sur le côté numérique, l'éditeur, notamment par exemple une bande dessinée, l'éditeur, il n'est pas juste là pour gratter sa part du marché, quoi. Il prend des risques.
Bien sûr.
Il y a un support, il y a une édition. Il faut trouver un distributeur, il y a le transport, il y a beaucoup de frais. Donc c'est normal qu'il soit rémunéré.
Alors attention, l'exemple que je citais tout à l'heure était vraiment, je mets de côté les frais engagés, etc. Je parle de ce que les uns et les autres récupèrent à la fin.
Ouais.
Donc la masse financière qui est gagnée...
Est-ce que c'est pas la hauteur des risques qu'il a pris, quoi ? Parce que tout seul, au final, le créateur tout seul, il est avec ses planches, il a fini ses planches, mais il peut rien en faire. Quoi.
Mais encore une fois.
Aujourd'hui, c'est discutable. Il pourrait très bien décider de numériser ses planches et de les vendre sur Internet.
Mais là, on en arrive au numérique. Et là où moi, je ne suis pas d'accord, c'est que pour faire le lien avec le jeu vidéo, le jeu en dématérialisé, il est vendu quasiment au même prix qu'en boîte.
En boîte.
Du coup, ça me dérange parce que là, l'éditeur, il prend plus de risques. Il n'a pas engagé tous ses frais de distribution. Il reste le côté marketing, ça c'est toujours le même. Mais il prend plus autant de risques parce qu'au final, L'éditeur, il donne une version à Steam, et Steam, il va faire des copier-coller. Le coût marginal du jeu, il est nul.
Oui, bien sûr. Donc, même le stockage des serveurs, c'est pas si énorme que ça. Mmh. Et ça tend de moins en moins à l'être.
Bien sûr. Ça me pose un problème, effectivement. Ah. Ça me pose un problème que l'éditeur ait toujours une plus grosse part sur le numérique que l'auteur. Moralement,
l'intelligence des gens comme Steam, comme Apple avec iTunes, ça a été de prendre le modèle du piratage en disant, on va baisser énormément les coûts. Et après, on divise ce qu'on gagne entre nous et l'auteur directement, en bypassant la distribution, les transporteurs, les...
C'est pas tout à fait le même modèle.
Voilà. Mais exactement. Quoi. C'est vraiment impensable que tu payes le jeu 60 euros en boîte en magasin, avec tout ce qu'il y a entre la création et toi.
C'est même pire que ça.
Et 60 euros en download. C'est incompréhensible.
C'est même encore plus pervers que ça, parce que dans la matière réellement... Sauf si tu vas l'acheter dans des grands groupes comme Micromania, et c'est absolument pas pour critiquer. Hein. Mmh. Mais c'est détaché de tout émotionnel. Il y a plein d'endroits où ton jeu, réellement, tu vas le payer entre 40 et 50 euros, totalement légalement, sans promotion, sans rien. C'est juste qu'il est vendu ce prix-là, et que si tu vas le chercher sur le Xbox Live ou le PSN, tu vas le payer plein pot. Donc tu le payeras même plus cher souvent en dématérialisé, qu'en boîte. Et là, c'est vrai que le...
Là, c'est hallucinant. Et souvent, une raison qu'ils donnaient, justement, quand on avait posé les questions entre les journalistes, surtout de jeux vidéo, au tout début, quand il y a les premiers jeux à downloader de plusieurs gigas qui ont le même prix que le jeu en matériel, ils ont demandé, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux éditeurs, mais pourquoi ? Expliquez-nous là, parce que là, on veut comprendre. Et la première raison que donnaient les éditeurs, c'est que c'est pour sauver les magasins.
Micromania, c'est caca.
C'est, donc moi, j'y crois pas une seconde à cet
c'est
argument.
C'est purement marketing, bon. C'est sûr.
Mais bon.
Il y a Coca Impact qui nous pose la question de savoir si le piratage n'est pas un système punitif en fait, vis-à-vis des éditeurs.
Ce qui est marrant, c'est que le parti pirate, donc qui, pour schématiser, c'est pas un parti qui est pour le piratage. Hein, bien qu'on se soit fait pirater nous-mêmes par le parti pirate.
Le nom pirate
c'est assez cocasse comme
situation. Il avait mis l'embête du... Il avait download la vidéo du 2 minutes sur le piratage. Il l'avait mis sur sa page YouTube à lui, en premier plan. Et même en lui demandant poliment de l'enlever, il me dit non. Enfin, il m'a même pas répondu. Quoi. Et en fait, il m'a répondu avant de savoir c'était quoi le sujet. Donc là, tranquille, ça va, ouais, machin. Et dès que je posais la question, boum. Donc j'ai essayé une deuxième tentative, pareil, même cirque. Ça va, ouais, je peux avoir ton mail, ouais. Tu peux l'enlever ? Hop, pas de réponse.
Alors, il faut peut-être parler des tout débuts de l'informatique, avant qu'il y ait des boîtes comme Microsoft.
On balance.
Le tout début de l'informatique, c'est un informaticien qui file son programme à un autre informaticien. Il se file donc deux programmes qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ça peut être un utilitaire, l'autre un jeu. Mmh. Et en plus, il file les sources avec. Donc, tout ce qui est mouvement open source, ça vient de là, ça vient des bases de l'informatique. Comme ça, on a un programme fonctionnel et en plus, on peut regarder dedans, l'améliorer et apprendre de l'expérience de l'autre programmeur. Non, mais le vendre, ça, c'est des gens qui arrivent après, plutôt au début des années 70 avec les premiers ordinateurs personnels. Et pourquoi le piratage ? Pourquoi il y a des gens tout d'un coup qui sont des programmeurs et qui se disent, voilà, j'ai des protégés. Les protections que mettent les boîtes qui vendent. Donc, on est arrivé dans la période commerciale donc du logiciel. Parce que souvent, c'est un défi. Ça, il ne faut pas le négliger. Quand tu mets une protection pour empêcher de voir le code d'un autre programmeur, lui, il n'a qu'une envie, c'est on enlève la protection. Et parce que les bases de l'informatique, c'était de pouvoir voir le code des autres et apprendre pour faire progresser le média plus rapidement. Et donc forcément, c'est un mouvement où il y a une partie de ce mouvement-là, pirates de base, qui sont les crackers, qui enlèvent qui déprotègent le logiciel, laisser comme on l'a créé l'informatique, arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, oui. Donc il y a une partie de ces gens-là qui ont gardé cette mentalité, cette éthique des débuts de l'informatique.
Faut le rappeler quand même, un très faible pourcentage.
Très faible pourcentage.
Mais
après, tous ceux qui donnent l'eau...
On ne parle pas de cela, mais effectivement, il y a toute une partie des pirates qui n'ont pas cette éducation, j'ai envie de dire. Ces personnes-là, effectivement, eux, c'est plus le côté, j'ai presque envie de dire, ludique de comprendre comment c'est fait, de, c'est comme un challenge, c'est comme les gens qui aiment les énigmes, les puzzles, où on se disant ok, voilà, c'est quand même costaud ce qu'ils ont fait, comment je vais passer au-dessus, il y a toute la
intellectuelle. Mais c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, bah, c'est une volonté politique de que ça soit en clair, que ça soit pas, le code soit pas caché. Qu'est-ce que fait le, est-ce que le programme qui tourne, il fait des choses à mon insu. Est-ce que c'est quelqu'un qui me, c'est un programme qui me sert ou c'est un programme qui me trahit? Ça, c'est quelque chose aussi qui est important.
Je pense que si la plupart des utilisateurs de Facebook, par exemple, de Twitter et autres, savaient tout ce que ces logiciels faisaient derrière leur dos, je pense que beaucoup arrêteraient de les utiliser.
Moi, je serais pour appliquer les lois de la robotique d'Isaac Asimov au programme. Aujourd'hui. Et il y aurait une tonne de programmes aujourd'hui qui seraient interdits légalement.
D'ailleurs, vous savez que si demain Skynet prend le contrôle, les deux seuls survivants, c'est les créateurs de Google qui ont mis dans l'algorithme de recherche leur nom avec la phrase je ne suis pas une cible.
C'est sympathique.
c'était une blague de leur part.
Tu as vu aussi, c'est très drôle.
Mais c'est plutôt drôle.
Mais ils ont beaucoup d'humour. Hein.
Est-ce que j'ai le temps de revenir sur la phrase que tu avais dit
Écoute, il nous reste exactement 9 minutes.
Oh là 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 là. Quand tu parlais de mettre ton jeu PS4 dans la Xbox One, c'est quelque chose avec laquelle j'avais parlé avec Thomas il y a 2 jours. En disant, puisque les deux consoles...
Deux jours, so old.
Ah ouais, c'est vrai. Ça met sur Internet, là. C'est...
La Xbox One, je l'ai acheté. Et Killzone, je l'ai acheté. Si je trouve un moyen de le faire tourner sur ma Xbox One, en quoi c'est illégal? Les deux ont été...
Tout seul, entre quatre murs, dans tes chiottes. Personne ne te voit, personne ne t'entend.
C'est une vraie question que tu posais. Moi, je m'étonnerais vers Henri. Mais comme ça...
Où est l'illégalité, justement?
Parce qu'en fait,
je vais te donner la raison technique historique.
Dans tes toilettes.
Le premier éditeur indépendant dans le milieu de la console, c'est Activision. C'est 79. Ces gens-là sont partis d'Atari. À l'époque, pour faire un jeu sur Atari 2600,
ils ont fait l'adaptateur.
Être employé d'Atari. Il n'y a pas cet écosystème de t'achètes une licence et des dev kits et tu vas faire ton jeu. Ils vont gagner leur procès à Activision parce qu'ils ont développé leur propre dev kit et que, et ça c'est la raison est très importante, la console n'a pas de protection qui empêche le développement externe, qui accepte du code non signé. Or, aujourd'hui, sur une One, une 360, si tu n'as pas le code signé par Microsoft, qui est un code qui est chez Microsoft verrouillé dans des coffres forts comme si c'était leur trésor, et quand tu envoies ton code source de jeu à Microsoft, il y a quelqu'un qui rentre dans cette pièce-là et qui va injecter la clé cryptée dans ton programme pour que ça puisse tourner sur les machines commerciales.
Mais concrètement, si tu arrives,
tu casses une protection qui est du code copyrighté.
Ça, t'as pas le droit dans ta chambre. Microsoft, ça, t'as pas le droit.
Oh, s'ils le savent, ils peuvent t'attaquer. Parce que c'est un secret d'entreprise. Donc aux États-Unis, je pense qu'ils peuvent t'attaquer. Alors en France, j'en ai aucune idée.
Si je déverrouille le jeu et que je le partage pas, que je garde pour moi, c'est illégal.
Alors, encore une fois, il faut distinguer entre ce qui est interdit et ce qui va vraiment être sanctionné. Si tu es tout seul dans ta chambre, je pense que personne ne le saura.
Tu ne seras pas sanctionné. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas illégal.
Mais est-ce que c'est interdit? Oui. Alors, pourquoi? Je reviens toujours à des considérations économiques. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça que c'est le nerf de la guerre. Quand on développe un produit quel qu'il soit, on développe en même temps son écosystème. Et c'est valable absolument pour tout. Là, aujourd'hui, par exemple, on a fait différents médias ont expliqué qu'on commençait à se disputer sur ce qui allait devenir les futurs standards pour tous les objets connectés. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on développe des produits et puis on développe des machines qui permettent de les faire tourner. Et tout ça, c'est des investissements, c'est-à-dire que créer une console, créer des jeux, c'est de la recherche et développement, c'est énormément de temps, d'investissement. Et soit on arrive à s'entendre en disant tous les jeux on va les faire, tous les jeux ou tous les produits on va les faire sous un certain standard, et en réalité on va s'entendre parce que c'est notre intérêt économique, je suis désolé de le dire, mais malheureusement c'est comme ça. Soit pour X raisons on n'arrive pas à s'entendre, et souvent on va y avoir une course pour savoir quel est le premier qui va imposer son standard. On voit d'ailleurs entre Apple et Google, iOS. Et,
entre Microsoft et Sony, Android, entre
tous ces... Pour les consoles, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque grand éditeur, chaque consolier a sorti son standard, sa console, et a envie de garder pour lui le marché. Et quand il sort un jeu, il veut que le jeu tourne sur sa console. Et si possible, on va sortir la console avant, avec la version du jeu avant le concurrent, pour que le budget consacré au jeu aille chez moi et pas chez l'autre. Et donc, du coup, comment ça va se traduire juridiquement ? Eh ben, au moment où on télécharge le jeu ou on l'achète en magasin, peu importe, dans la licence, puisqu'encore une fois, en réalité, on n'est pas vraiment propriétaire, c'est comme si on avait une espèce de super droit de location, c'est bien marqué qu'on ne peut pas faire tourner le jeu sur une autre console. Et c'est pour ça que c'est interdit.
D'accord. Et donc, en achetant, je reconnais que j'accepte ces conditions. Quoi.
Tout à fait.
Okay. Et du coup, quand j'achète un an de l'Xbox Live, okay, et que je rentre sur l'Xbox Live, je valide les conditions d'utilisation, et que 3 mois après, et ça arrive, on te dit « Ah, tu veux te connecter, mais il y a les nouvelles conditions. » Et si tu ne les acceptes pas, tu ne te connectes plus. Du coup, j'ai acheté un produit qui dure un an, mais 3 mois après, je n'ai pas de choix.
Non, parce que dans les conditions d'origine...
Ceci dit, là, on va malheureusement pas avoir le temps de creuser le truc, mais ça, c'est une vraie question.
C'est une vraie question, et c'est pas... Je fais un teasing, hein. C'est pas impossible que ça soit une clause abusive, mais je...
C'est bien possible, ouais.
Et si je marque que je me réserve le droit de faire des modifications ultérieures?
Ça peut être abusif.
Bon, donc ça sous-entend qu'il va falloir qu'on se réunisse de nouveau peut-être un petit peu plus tard pour en discuter du sujet. On s'approche tout doucement de la fin de l'émission. Du coup, on n'a pas vraiment répondu encore à la question. Je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, en 2014, le piratage est devenu un mode de consommation ?
C'est devenu un dommage collatéral qui est bien pour le futur du jeu vidéo, mais qui reste un dommage collatéral qui n'est pas bien pour la majorité des titres.
Oui, mais est-ce qu'on peut quantifier ? Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu peux quantifier le nombre de... un marché qui a réussi à émerger, à devenir quand même à peser très lourd, de façon très rapide ?
Mais pourquoi tu veux le quantifier ?
Pour prendre le problème à l'inverse, c'est qu'est-ce que doit ce marché-là aux pirates ? Parce que si tu veux quantifier les dommages collatéraux, comme tu dis, du piratage par rapport aux œuvres qu'ils vendent en payant, est-ce que, par exemple, une machine vide, une console sans... à l'époque, c'était ça. Hein, à l'époque, c'est acheter un Amstrad 6128. Si tu n'avais pas les jeux piratés, tu ne lâchais pas ton Amstrad. Hein, tu ne lâchais pas. Le marché, donc, ne se serait pas développé aussi rapidement. Voilà.
Du coup, tu dis, comme je les éduque, en les piratant, j'éduque l'industrie, et comme je les éduque, elles me doivent quelque chose. Maintenant, quand tu t'énerves contre quelqu'un dans la rue, tu l'éduques parce que tu lui dis un truc, tu prends de l'énergie pour lui expliquer un truc, mais il te doit rien.
Oui, bien sûr, sur la question, est-ce que ça fait partie de la consommation, je pense qu'on peut en discuter, on n'aura pas forcément la même opinion. Je pense qu'une chose est sûre, par contre, c'est que c'est un fait, ça existe, et que l'industrie a besoin de le prendre en compte, et peut-être qu'aujourd'hui ils ne le prennent pas suffisamment en compte.
Ouais. Bah, le problème, c'est qu'on a un outil qui permet la copie, et des fois les compagnies ont fait comme si ça n'existait pas, ou comme si c'était éliminable, quoi, de l'ADN de la machine, alors que la machine, elle est faite avec de la mémoire pour copier des 0 et des 1 et les recopier et les transformer. Comment on peut empêcher, en fait, sa fonction de base, comment on peut l'empêcher? Voilà, c'est pour un... Moi, je ne vois pas la problématique. Tant qu'il y aura de l'informatique, il y aura du hack, et il y aura de la copie, et il faut prendre compte cet état de fait, et l'admettre, quoi, tout simplement. Quoi, Voilà.
On est à peu près donc tous les 5 d'accord pour dire qu'il va être nécessaire de faire un petit peu d'éducation des deux côtés de la barrière, et que la communication n'est peut-être pas pour l'instant au beau fixe, et c'est ce qui pose problème au-delà du piratage.
Et de trouver des nouveaux modèles économiques. Rémi tout à l'heure l'abordait sous forme de blague, mais le free-to-play, c'est, je pense, une solution au piratage.
Bah écoute, le jour où on fait un free-to-play, vous serez les bienvenus à nouveau. Je vous remercie, messieurs,
merci
d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'était très riche, très enrichissant. Voilà, je rappelle rapidement donc Douglas qui était avec nous ce soir, Henri qui s'est chargé de la partie légale, et Rémi et Thomas. Donc je vous invite à aller voir sur le net un drop dans la box, dans la mare, pardon, je vais y arriver, pas dans la box. Je sais pas pourquoi dans la box, parce que Xbox Live probablement. Puis je reviens parce que tu bosses aussi avec MO5, et puis il y a quelques vidéos que je vous invite à aller voir aussi qui sont faites par MO5
notamment, si je suis en train de chercher le nom du podcast, c'est Hard.
Very Hard,
je suis en train de chercher, oui. Qui est vraiment très bien.
On fait les podcasts aussi. Hein,
bah, voilà.
Il y a les deux, voilà.
Ouais, les podcasts, je ne les ai pas encore écoutés, alors que j'ai vu les vidéos et pour apprendre comment fonctionne. Bah, si jamais vous êtes curieux de savoir comment fonctionne une machine, justement, surtout les machines que vous avez vues quand vous étiez plus jeune, je vous invite à aller voir ça. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On parlera d'un sujet totalement différent, mais j'en parlerai un petit peu plus tard en détail. Voilà, merci beaucoup messieurs et à très bientôt.
Merci.
Au revoir. Bonne soirée.